Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes, et bonsoir aussi à ceux et celles qui sont en distanciel, qui sont assez nombreux. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette soirée qui va être consacrée au dernier des ouvrages parus dans la série des œuvres complètes du cardinal Henri de Lubac. Est-ce que vous entendez mieux comme ça? Ça va? D'accord. Comme ça, ça va mieux? Bon. Voilà, donc je suis heureux de vous accueillir pour cette soirée consacrée au volume Mystique et Mystère chrétien. Une soirée qui est organisée à l'initiative de l'Association internationale cardinal Henri de Lubac, qui est présidée par Mgr Éric de Moulin-Beaufort, que je suis très heureux de saluer, et qui d'ailleurs dira quelques mots tout à l'heure au terme de cette séance. Je suis heureux d'ailleurs de voir aussi dans l'Assemblée des membres du conseil de direction de cette Association internationale cardinal de Lubac, en particulier M. Sutton, M. Prévota, et le Père Suero qui nous vient de Madrid. Et peut-être d'autres encore. Comme vous savez, cette association internationale se charge notamment de la réédition des œuvres du Père de Lubac aux éditions du CERF. On peut vraiment remercier les éditions du CERF, justement, pour le soutien qu'elles apportent à ce projet. Et le volume de ces œuvres, qui est récemment paru, Mystique et Mystère chrétien, a été préparé par M. Bertrand Dumas, qui est à ma droite. Vous trouverez d'ailleurs au fond de cette salle, des exemplaires de ce volume, et aussi, d'après ce qu'on m'a dit d'ailleurs, d'autres volumes des œuvres complètes, quatre d'entre eux, je crois, sont vendus avec un prix tout à fait intéressant, 50% de réduction. Je vais présenter d'abord donc Bertrand Dumas, qui a réalisé cet ouvrage. Vous enseignez à la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg. Vos thèmes de recherche sont notamment, pour ceux qui sont présentiels, merci de veiller à éteindre le micro, hein, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Merci d'éteindre le micro. Voilà, donc vous enseignez à la faculté de théologie de l'Université de Strasbourg. Je disais, vos thèmes de recherche, ce sont la théologie de la vie spirituelle, la théologie mystique, la pensée du Père de Lubac, donc. Mais vous travaillez aussi sur la spiritualité de la conjugalité, du sacrement du mariage. Vous traitez des questions de théologie pastorale. Vous avez publié en 2013 l'ouvrage Mystique et théologie d'après Henri de Lubac, qui est paru dans la série Études lubaciennes. Et nous allons d'abord vous écouter, et après il y aura deux interventions à propos de ce volume que vous avez préparé. Il y aura d'abord une intervention de Madame Brigitte Cholvy, qui est à ma gauche. Brigitte Cholvy, professeur émérite de théologie à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris. Vous avez été, entre autres, directrice du cycle des études de doctorat, je crois, de 2018 à 2021. Vous avez notamment travaillé sur la question du surnaturel chez le Père de Lubac, avec un ouvrage « Le surnaturel incarné dans la création », une lecture de la théologie du surnaturel d'Henri de Lubac, paru en 2016. Voilà, donc nous entendrons votre intervention après celle de Bertrand Dumas. J'interviendrai moi-même en dernier lieu. Puis nous aurons un temps d'échange avec vous. Et comme j'annonçais au terme, Mgr Moulin-Beaufort pourra dire un mot comme président de l'association cardinal de Lubac. Voilà, je suis très heureux de vous laisser la parole.
Merci Père Michel Fédou. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'avoir été invité à présenter cet ouvrage du Père de Lubac. Merci à l'association Cardinal Henri de Lubac et aux facultés Loyola pour l'organisation de cette soirée. Merci aussi, puisque c'est le moment de le dire, à celles sans qui ce volume n'aurait pas vu le jour. Il y a eu plusieurs personnes et notamment, particulièrement, Madame Catherine Baudouin-Simon comme traductrice et Madame Mascle pour l'architecture et tout ce qui est de l'ordre de l'édition. Alors, Quelques mots concernant cet ouvrage Mystique et Mystère chrétien. La mystique, cette sorte de fulgurance difficile à définir, ce prétendu court-circuit de Dieu à l'âme, interroge et ne laisse pas d'inquiéter. Depuis des siècles, en tout cas, la mystique constitue une sorte de cas de conscience pour la foi catholique, un phénomène qui attire autant qu'il inquiète et qui suscite le débat. Comment rendre compte de cette sorte de perception expérientielle de Dieu et de la tension qu'elle instaure par le fait même d'exister, hein, tension par exemple entre mystique et foi, ou mystique et langage, ou même tout simplement mystique et intelligence. Une liste non exhaustive, mais en somme on constate que la mystique n'a rien d'une évidence en christianisme, ni lorsque comme chrétiens nous scrutons notre propre tradition spirituelle, ni lorsque nous considérons la diversité des phénomènes mystiques dans les religions du monde ou hors d'elles. Donc la mystique, moins l'objet d'une possession tranquille qu'une sorte de nœud, presque de douloureux rappel à l'intelligence des chrétiens. De fait, le père de Lubac ne s'est pas lancé dans l'étude de la mystique sans un certain embarras, mais pas non plus sans une détermination forte à rendre raison de ce phénomène à la fois universel et typiquement catholique. Et une fois que j'ai dit ces deux choses-là, je suis au cœur de mon propos, hein, universel et typiquement catholique. C'est maintenant un lieu commun de rappeler que la mystique constitue, dans l'œuvre du père de Lubac, un axe majeur, une intuition sous-jacente, un fil rouge, j'ai envie de dire. Lui-même écrivait, je cite, « C'est, je crois bien, depuis assez longtemps, l'idée de mon livre sur la mystique qui m'inspire en tout. C'est de là que je tire mes jugements. C'est lui qui me fournit de quoi classer à mesure mes idées. Mais ce livre, je ne l'écrirai pas. Il est de toute manière au-dessus de mes forces physiques, intellectuelles et spirituelles. » Bon, alors quoi ? Le père de Lubac n'a pas écrit de livre sur la mystique, et ce soir, nous avons le plaisir de présenter un ouvrage intitulé « Mystique et mystère chrétien ». De fait, ce volume est composé en fait d'un certain nombre de textes, 10 plus précisément, qui sont de provenance et d'importance variable. Il y a alors dans l'ordre, hein, « Mystique et mystère », il y a ensuite les 4 textes du volet du dossier intitulé « Morale et mystique, l'anthropologie tripartite dans la tradition ». Il y a ensuite une longue étude intitulée « Recherche dans la foi, 3 études sur Origène, Saint-Anselme et la philosophie chrétienne ». Puis, 4 autres textes, un peu plus brefs, « La doctrine du Père le Breton sur la révélation et le dogme » d'après ses écrits antimodernistes, « Le problème du développement du dogme », »,« La philosophie religieuse de Bergson » et un inédit « Création et Trinité ». Donc, à première vue, les sujets traités apparaissent relativement hétérogènes. On parle de mystique, de morale, de religion, d'anthropologie, de philosophie, de dogme, d'où question, est-ce qu'on serait face à une sorte de pot-pourri, pour le dire un peu familièrement. La question de l'unité de l'ouvrage se pose. Elle se posait déjà en 79, lors de la parution de l'équivalent de ce volume, en italien, hein, Mystica e Mistero Cristiano. À l'époque, le père de Lubac s'était laissé convaincre par l'audace et la persévérance du jeune directeur des éditions Jacques Abouc, et il avait dressé un plan de ses œuvres complètes pour l'édition italienne, et il les avait regroupées en sections thématiques, complétées par une sélection d'articles significatifs ou d'inédits. Ainsi est né en italien le volume consacré à la mystique, et ainsi nous arrive aujourd'hui, en français, le volume consacré à la mystique. Comme l'ensemble des œuvres complètes publiées au Cerf, et malgré quelques variantes, hein, on pourrait en parler, le présent volume suit donc la majorité des choix opérés à l'époque par le père de Lubac lui-même pour l'édition de ses œuvres complètes en italien. C'est-à-dire qu'à la fois on y met des textes majeurs, et puis vers la fin du volume, on a glissé des articles de moindre importance, ou de moindre volume, et en tout cas devenus difficiles à trouver, voire même, à la toute fin, un inédit. Une fois qu'on a brossé ce tableau, on peut quand même discerner 3 grands moments dans cet ouvrage, hein, 3 grandes parties. D'abord, en tête, comme le voulait le père de Lubac, il y a un texte relativement bref, hein, ça fait je crois à peu près une cinquantaine de pages, mais un texte majeur, mystique et mystère. C'est vraiment le premier pôle du volume qui envisage la mystique comme une capacité d'accueil, une capacité humaine que vient remplir, former le mystère de Dieu qui se révèle. Ce faisant, le père de Lubac caractérise de manière objective l'origine du phénomène mystique universel, ainsi que ses conditions d'épanouissement. Donc le pôle, j'allais dire, objectif et premier, en amont de toute détermination anthropologique ou langagière, ou toutes choses intéressantes, mais qui ne sont pas l'objet propre du père de Lubac. La mystique comprise avant tout par son origine et son intentionnalité divine. Premier pôle, mystique et mystère. Puis vient ensuite un grand dossier intitulé « Morale et mystique, l'anthropologie tripartite dans la tradition chrétienne ». Par une revue suggestive des différentes traditions religieuses et philosophiques, le père de Lubac montre combien l'unité de la religion, de la morale et de la mystique est un fait typiquement chrétien et même catholique. C'est-à-dire là où, de manière générale, on a comme des sortes centrifuges, des forces centrifuges qui ont tendance à disjoindre la religion, la morale et la mystique, on le constate jusqu'à aujourd'hui encore, ces forces centrifuges, le père de Lubac, en s'appuyant sur une anthropologie tripartite traditionnelle, tient pour typiquement chrétien et même catholique cette sorte d'imbrication réciproque du mystique, du religieux et du moral. Mais je crois, Brigitte, tu reviendras sur ce texte. Un texte composé de 4 chapitres et qui forme un tout malgré un caractère relativement inachevé. Bon, très bien. Ces deux éléments forment pour ainsi dire l'ossature du livre. Ce sont deux pôles auxquels rattacher non seulement la suite de l'ouvrage, mais certainement aussi l'ensemble de la question mystique chez le père de Lubac, qui ne se réduit bien évidemment pas à ce volume. Elle est comme disséminée dans le reste de son œuvre. Mais dans ces deux séries de textes, le mystère est considéré vraiment, j'ai envie de dire, donc le mystère de Dieu, dans sa capacité unitive. C'est à la fois l'union de Dieu à l'homme, tout autant que l'union de l'homme en ses différentes puissances, d'où non-séparation entre le moral et le religieux, par exemple. Surtout, le mystère se trouve envisagé dans son caractère à la fois simple et complexe, puisque on parle du mystère de l'homme créé par et pour Dieu, et du mystère de Dieu qui se donne à l'homme, les deux étant constamment tissés ensemble, du mystère de Dieu au mystère de l'homme. Dis-moi, lequel des deux est le plus profond ? Dans ce volume et en tous ses écrits, le père de Lubac cherchera toujours à promouvoir une mystique authentiquement chrétienne, donc envisagée à la lumière conjointe du désir naturel de voir Dieu et du mystère du Christ. Toujours ce balancement, ce double appui d'une visée universelle et du mystère du Christ. Après ces deux pôles, on a envie de dire la mystique dans son objectivité donnée par Dieu et la mystique dans sa puissance unificatrice de l'humain, deux pôles qui se croisent, vient une troisième partie intitulée « Fécondité théologique et philosophique » qui envisage en fait un certain nombre d'implications de cette union indéfectible du mystère de Dieu et du mystère de l'humain, de cette espèce de tissage conjoint. Non pas que ces 5 textes soient tous une conséquence directe des dossiers qui précèdent, mais chacun, dans son ordre et à sa manière, en fait, refuse de tracer en l'homme une ligne de partage étanche entre ce qui serait d'un côté le surnaturel et de l'autre la nature humaine. Le mystère de Dieu, cœur de la mystique, rayonne et attire à lui toute l'activité humaine, donc pas de philosophie sans théologie et inversement, pas d'intelligence du dogme sans considération de l'inadéquation aussi bien du langage que de l'intelligence, etc., etc. En fait, la mystique préside secrètement à l'ensemble de la réflexion et garantit à la théologie comme à la philosophie de pouvoir porter fruit. Donc finalement, potpourri, comme son homologue italien, cet ouvrage mystique et mystère chrétien jouit d'une réelle unité, à savoir la considération conjointe du mystère de Dieu qui œuvre à son accueil dans la mystique, laquelle rayonne sur l'ensemble de l'activité humaine. Donc, bien que cet ouvrage manifeste assez clairement par moments un caractère, partiellement inachevé, on voit bien qu'il y a des dossiers que le père de Lubac aurait sans doute voulu retravailler. Néanmoins, l'ensemble forme un tout cohérent et c'est non seulement un livre, mais je crois qu'on peut dire que c'est un grand livre. S'il fallait prendre le temps maintenant d'en venir plus précisément au texte qui ouvre l'ouvrage, donc ce premier texte, Mystique et Mystère, qui part de cette objectivité du don de Dieu. C'est un texte, je l'ai dit, relativement bref, une cinquantaine de pages, et pourtant capital. Je vais reprendre la citation précédente du père de Lubac et l'amener jusqu'à son terme, quand il disait « Ce livre est au-dessus de mes forces. Ce livre sur la mystique est au-dessus de mes forces, physiques, intellectuelles, spirituelles. » Cependant, continue le père de Lubac, le père André Ravier m'ayant demandé une préface pour l'ouvrage collectif qu'il préparait et qui apparut en 1965 sous le titre « La mystique et les mystiques », j'ai résumé dans cette préface quelques-unes des idées qui, d'après mon dessin primitif, auraient été développées en plusieurs volumes. On voit bien le style du père de Lubac. Donc en fait, le premier texte, Mystique et Mystère, c'est cette préface, c'est cet embryon, c'est un peu comme de la nourriture lyophilisée, quoi. Il aurait eu le temps et ça se serait déployé en plusieurs ouvrages. Donc c'est un concentré de sa pensée sur la mystique, un élément majeur, et je l'ai dit, qui va venir s'emboîter avec le suivant sur l'anthropologie. C'est de cet article que parle le père de Lubac lorsqu'il évoque le texte qui livre l'essentiel de sa pensée mystique et l'axe unificateur de sa réflexion. On a donc la chance, en ouvrant ce volume, de tomber tout de suite sur le texte qui nous donne le fil rouge, qui se déploiera, je crois qu'on peut le dire, dans l'ensemble de la réflexion lubacienne, ce que vous avez très bien montré, père Fédou, dans le dernier chapitre de votre ouvrage sur le père de Lubac. Dans cet article qui ouvre le volume, la question de la mystique, une des questions les plus débattues au XXe siècle, est prise à bras-le-corps par le père de Lubac dans une double optique de dialogue et de confrontation. On reconnaît bien là l'apologétique lubacienne dont on va reparler tout à l'heure. De fait, on a pu décrire le XXIe siècle comme ayant été dominé par différents types d'approches de la mystique, l'approche scientifique, l'approche psychologique, l'approche pragmatique et pluraliste, sans recours à une cause transcendante, l'approche pluridisciplinaire, associant la philosophie et la théologie aux sciences humaines. D'un certain point de vue, le père de Lubac est représentatif de cette dernière approche et de cette période, puisqu'il croise théologie et approche interreligieuse, et même la question des mystiques athées. Il ouvre le champ très largement. Mais il le fait d'une manière originale, en alliant le christocentrisme le plus fort, c'est-à-dire que pour lui, toute mystique est polarisée par le Christ et reçoit du Christ sa forme définitive. Et en même temps, cette vue christocentrique s'allie à une vision dynamique de la nature humaine, faite pour la vie mystique, toute vie humaine. Le père de Lubac souligne combien les perspectives issues de la sociologie, de l'histoire des religions et de la psychologie sont, à son époque, à l'origine d'un bouillonnement d'idées dans le champ des études mystiques, à la faveur duquel ce sont, ou c'était, on va dire, ça a quand même quelques décennies maintenant, c'était des positions plutôt radicales qui avaient tendance à se faire entendre. Mais ce débat n'est pas mort. Au fond, le père de Lubac portait le souci de ne pas laisser les catholiques, pris en tenaille, entre des thèses inverses et qui empêcheraient les chrétiens de vivre une vie vraiment mystique, avec notamment ce double risque, certains étant tentés de repousser la mystique comme étrangère à la véritable foi chrétienne, une sorte, on va dire, de parasitisme païen qui viendrait drainer la sève évangélique, avec souvent ce reproche, si la mystique est un court-circuit direct à Dieu, pourquoi la révélation, voyez ? Donc d'une part, le père de Lubac, évidemment, essaye de se garder de cet écueil, d'une mystique vue comme fondamentalement non chrétienne, une sorte de parasite. Ou bien, à l'inverse, il se garde de cet autre obstacle qui serait de se laisser fasciner par l'universel mystique. Il n'y a qu'à regarder tout autour dans les autres religions et même hors religion. Le risque de se laisser fasciner par ce caractère universel de la mystique, au point de ne plus voir la spécificité de la mystique chrétienne, c'est-à-dire fondamentalement le risque de ne plus voir la spécificité du Christ lui-même. En fait, par amputation de la mystique, ou par le risque de la diluer dans un mysticisme commun à tous, vous connaissez cette image, cette idée que toutes les mystiques se rejoindraient finalement au sommet, au-dessus des murs dressés par les religions, à distance de ces deux considérations, pour le père de Lubac, la mystique est en fait une réalité menacée. Quand il écrit, dans les décennies d'avant et à son époque encore, une réalité menacée, une réalité en danger. Et c'est pour ça qu'il écrit en partie, hein, c'est pour ça qu'il écrit ce texte à saveur apologétique, hein, à savoir comment comprendre la mystique, comment en proposer une interprétation qui fasse droit aussi bien à l'universalité du phénomène mystique, on ne peut pas dire que la mystique serait l'apanage des chrétiens, et en même temps qui fasse droit à une véritable spécificité et une maturité de la mystique quand elle se déploie dans le christianisme. Donc il va le faire finalement selon une proposition qui se tourne autour de la question du mystère. Il y a dans la nature humaine une aspiration accompagnée d'une capacité à accueillir Dieu, c'est le mysticisme. Et ce mysticisme, quand il est informé, déployé, guéri, habité par le mystère du Christ, il devient une authentique mystique. Vous voyez ? Donc c'est ce don de Dieu appelé et suscitant cette capacité humaine, c'est la rencontre des deux qui constituera pour le père de Lubac la mystique. Donc avec à la fois ce pôle universel, cette aspiration, universel mysticisme, universel désir de l'union à Dieu, et en même temps la révélation chrétienne qui vient lui donner sa forme. Donc, sorte de travail d'alchimie de la foi, j'ai envie de dire, même si c'est pas des mots du père de Lubac, ça. L'enjeu, vous le sentez bien, est à la fois, bien sûr, théologique, mais éminemment spirituel et pastoral. C'est la question de l'intégrité de la foi chrétienne et de la réception de l'œuvre du salut. Par la mystique, envisagée comme ça, le mystère du Christ se fait intérieur et se déploie dans la vie de chacun. C'est une capacité d'accueil. Nous pénétrons donc au cœur de l'argumentation de mystique et mystère qui met en avant l'objectivité de la mystique en même temps que sa nécessaire réception personnelle. Donc sans craindre d'être infidèle au Christ, le chrétien peut à la fois accueillir de tout cœur la mystique, que le mystère du Christ marque de son empreinte, mais aussi s'émerveiller du grand fait mystique, certes incoatif, mais du grand fait mystique qui existe en dehors du christianisme. Donc une position qui évite à la fois la dilution ou l'exclusivisme. Loin des questions d'école, le père de Lubac s'attache à tisser le lien entre le mystère et la mystique, comprise donc comme accomplissement et conversion de cette universelle faculté d'accueil. Alors bien sûr, les lecteurs avertis que vous êtes auront reconnu là très, très clairement la pensée du père de Lubac concernant la nature humaine et le surnaturel. Ce refus de l'extrinsécisme ou du mélange. On peut donc souligner la cohérence de la pensée lubacienne. Mais au-delà de ça, moi ce qui m'a frappé en le relisant, c'est de constater combien le père de Lubac a cette capacité à la fois de penser la nouveauté chrétienne. De fait, le mystère du Christ vient déployer quelque chose de nouveau dans le cœur humain, mais ce talent qu'il a de ne pas penser ça en vase clos, comme si ça n'existait qu'en christianisme, comme si on ne pouvait pas non plus se confronter, se réjouir et interpeller le grand fait mystique hors du christianisme. Donc cette capacité à penser la nouveauté chrétienne, mais dans le contexte de l'ensemble de l'humanité, je trouve ça très très fort, très beau, à l'heure où la coexistence religieuse, et d'ailleurs aussi la théologie du dialogue interreligieux, se trouve assez largement à la peine, on mesure l'audace d'un tel geste. Ce sera encore plus évident dans le texte Anthropologie tripartite, qui est clairement un texte comparatiste dont on reparlera tout à l'heure. En fait, ce geste du père de Lubac, qui à la fois ne veut pas couper le christianisme du reste de la spiritualité des humains, et qui en même temps ne veut pas le diluer et le ramener trop facilement à de prétendus facteurs communs. La tâche est rude mais impérative. Il en va non seulement de la fidélité au réel, puisque les hommes et tous les hommes sont d'une manière ou d'une autre des spirituels. Non, c'est pas moi. Il en va aussi d'une confiance dans l'acte divin, l'acte de création et l'acte de récapitulation dans le Christ. Comme l'écrivait le père de Lubac, esprit créé, en parlant de tout être humain, esprit créé, nous sommes un élan vers l'absolu. Mais beaucoup de choses nous cachent à nous-mêmes et s'efforcent de faire dévier cet élan. Au fond de nous, pourtant, il demeure, il attend d'être libéré. Donc la réflexion du père de Lubac, c'est vraiment ça, c'est de prendre en compte cet élan qui habite chacun, et de cet élan mystique, ce mysticisme naturel, et de montrer comment le mystère du Christ va venir le libérer, le déployer, le guérir, en fait. Donc le mystère du Christ comme guérison de l'universel mysticisme, qui va du coup se déployer en une authentique mystique. Voilà, est-ce que j'ai encore 5 minutes, chef? Oui. D'accord. Alors peut-être quelques éléments d'actualisation, parce que ce serait dommage d'en rester à ces considérations, enfin qui sont déjà très riches, vous l'avez compris. Mais ce qui m'a marqué aussi, c'est de voir combien cet ouvrage et cette vision de la mystique qui s'en dégage reste d'une actualité étonnante des décennies plus tard. Une actualité très vive, touchant la question à la fois de la mystique et de la spiritualité au XXIe siècle. Parce qu'en fait, pour le père de Lubac, il n'y a pas de distinction fondamentale entre la mystique et la spiritualité. Il n'y a pas d'un côté cette haute demeure pour quelques-uns, et de l'autre la voie commune, c'est tout un. Ce qui veut dire qu'en fait, cet ouvrage parle non seulement de mystique, mais il parle aussi plus largement de la vie spirituelle, la vie selon l'esprit. Et du coup, vous mesurez ce positionnement, l'impact de ce positionnement du père de Lubac, quand on pense aujourd'hui à ce que signifie mystique ou spirituel pour la plupart de nos contemporains. La notion aujourd'hui est d'une plasticité, d'un flou remarquable. Elle va dans tous les domaines, on ne sait même plus vraiment de quoi on parle. À tel point d'ailleurs, j'ai remarqué que la spiritualité, en tout cas c'est Obadia dans son ouvrage, le sociologue Obadia, qui remarque que la spiritualité aujourd'hui est même devenue un argument marketing. Ça vend bien, le mystique et le spirituel. En fait, au travers du spirituel ou de la spiritualité, la pensée contemporaine semble aspirer à s'affranchir du matérialisme qui l'étouffe. Et c'est sa grandeur, évidemment. Spirituel connote alors la libération, l'humanité intérieure et véritable, la possibilité de devenir enfin soi face au déterminisme de toutes sortes, que cette spiritualité ou que cette mystique soit religieuse ou ne le soit pas. Paradoxalement, d'ailleurs, le spirituel, si vous regardez bien, devient de moins en moins un horizon libérant et de plus en plus une injonction. Il faut déployer une spiritualité en tout domaine, il faut déployer une spiritualité écologique, personnelle, développement, enfin bref. Du coup, c'est assez remarquable de voir que les textes du père de Lubac, pourtant très éloignés de ce qu'est devenue la spiritualité contemporaine, continuent de se présenter, j'ai l'impression, comme un stimulant puissant au service aujourd'hui d'un accueil de cette spiritualité aux azimuts, mais pour une guérison par le mystère du Christ. Par exemple, juste un exemple et puis après j'arrêterai, si on retient l'aspiration à la liberté individuelle comme une des trois caractéristiques majeures de la spiritualité contemporaine, là je m'appuie sur un auteur comme Jean-Marie Guelette. Donc si on garde juste cette idée de la liberté, comme étant un des critères majeurs du spirituel aujourd'hui, on trouvera dans la pensée lubacienne de quoi soutenir une vision puissante, une vision très consistante de la liberté humaine, en même temps que le père de Lubac va la resituer sur cet horizon de l'origine et de la destinée commune de l'humanité. Je ne suis pas libre pour moi tout seul. Je suis libre sur cette trame d'une humanité et d'une destinée commune. Ainsi, avec le père de Lubac, on se rendra attentif aux risques majeurs qui guettent le spirituel contemporain, le coaching spirituel, la mystique, dans tout ce qu'elle a de quelquefois extravagant, quelquefois très beau aujourd'hui, le grand risque étant la solitude. L'autre face de la grande liberté qui est prônée dans le spirituel aujourd'hui, c'est le fait que souvent vous faites votre chemin quand même un peu tout seul, dans des communautés électives, mais qui durent ce qu'elles durent. Du coup, l'ecclésialité. Le fait que la mystique se déploie de manière ecclésiale et qu'elle ait une caractéristique profondément ecclésiale, ce que souligne le père de Lubac et qu'il met au nombre des critères d'une authentique vie selon l'esprit, voilà qui devient quelque chose de très percutant, plus que poil à gratter, j'ai envie de dire. Mais c'est très intéressant parce que du coup, cette ecclésialité ne sera plus seulement le cadre toujours trop rigide de mon expérience intérieure et strictement personnelle, mais elle apparaîtra pour ce qu'elle est réellement, à savoir le lieu de déploiement et de connexion de cette liberté que je cherche dans la vie spirituelle, mais de connexion avec d'autres libertés. D'abord l'immense liberté de Dieu, qui fonde et qui appelle ma liberté, mais aussi la liberté des autres personnes humaines avec qui je me retrouve en Église. Du coup, cette ecclésialité de la mystique selon le père de Lubac apparaîtra comme un remède pratique, très concret, contre cette tentation fondamentale de se prendre toujours pour son propre objet de la vie spirituelle et la propre mesure de la vie spirituelle. La mystique, dit le père de Lubac, cette capacité d'accueil vide et sans force. Ou bien encore, dit-il, cette éros qui attend tout de Dieu. De fait, l'objectivité ecclésiale, située en face et en amont du croyant, constitue ici le lieu et la visibilité de cette, j'ai envie de dire, de ce caractère objectif du mystère de Dieu, qui précède le chercheur. Vaste sujet, actuel, et j'ai envie de dire volontiers contre-culturel, tant la dimension ecclésiale continue d'être ressentie comme en tension avec la recherche spirituelle contemporaine. Pour conclure, ce que j'ai trouvé, entre autres choses, moi vraiment passionnant dans cet ouvrage, à relire le père de Lubac, c'est de comprendre avec lui cette impossibilité d'envisager une spiritualité chrétienne ou une mystique chrétienne, c'est pareil, chimiquement pure, c'est-à-dire constituée une fois pour toutes hors de tout conditionnement humain. Des fois, on aimerait bien qu'il y ait un christianisme pur, qu'il y ait des rites qui soient comme ça, révélés directement par Dieu, et la mystique n'y échappe pas du tout. On attend souvent une vie spirituelle qui soit 100% de Dieu. Or, le père de Lubac nous ramène à ce constat très clair de la théologie fondamentale, que toujours la révélation vient s'inviscérer et habiter notre nature humaine, et que donc il n'y a pas à atteindre une spiritualité qui serait hors des conditionnements humains. C'est pourquoi d'ailleurs on constate qu'y compris chez les chrétiens, toujours tel ou tel trait spirituel se développe et tend à s'hypertrophier chez l'individu, ou dans une communauté, ou dans une époque, quel que soit le sujet, paternité divine, médiation du Christ, voie de la prière, don de soi, il n'est aucune des facettes de la foi chrétienne qui ne court le risque de se séparer du tout de la foi et de mener petit à petit son expérience, son existence autonome et problématique. Et on l'a vu régulièrement encore dans certaines affaires de l'Église. C'est alors que la théologie en général et la conception de la vie spirituelle du père de Lubac en particulier, c'est alors qu'elle s'avère d'un grand secours. Par cette primauté accordée à l'objectivité du mystère du Christ, par l'importance des médiations, y compris la médiation ecclésiale, mais aussi la médiation de la vie morale ou de l'intelligence humaine, bref, on voit combien la pensée du père de Lubac concernant la vie spirituelle se pose comme un salutaire inconfort face à nos tendances d'hommes et de femmes du XXIe siècle, comme un service de la vie spirituelle des chrétiens et, sans doute, de tout homme. Merci de votre attention.
Merci de nous avoir aidé à découvrir le contenu de ce livre, différents textes qui le constituent. Et merci surtout d'avoir attiré notre attention en particulier sur ce qui est sans doute le texte le plus important de l'ouvrage, cette fameuse préface au volume « La mystique et les mystiques » d'André Ravier, le texte « Mystique et mystère », qui est comme l'embryon du livre que le père Dulbach aurait voulu écrire. Et c'est passionnant de comprendre avec vous comment Père Dulbach a eu le souci de prendre en compte à la fois le grand fait mystique universellement présent et la spécificité du mystère chrétien. Merci aussi pour ce que vous avez dit à la fin sur l'actualité, les enjeux actuels de cette réflexion du Père Dulbach. Je vais maintenant laisser la parole à Brigitte Solvi pour une deuxième intervention à propos de cet ouvrage « Mystique et mystère ».
En espérant que ce micro va marcher. Oui ? Le prochain peu plus. Maintenant, ça va être parfait. Merci. Bien, merci beaucoup de l'invitation à intervenir ce soir pour réagir sur ce très beau livre. Très, très belle, très beau numéro 6, volume numéro 6, grand livre, était dit à l'instant, et je confirme. Je vais réagir sur trois points en 20 minutes, 25 minutes peut-être, pas beaucoup plus. Certains points vont être repris de ce que Bertrand Dumas vient de dire. Vous accepterez la répétition peut-être. Premier point, ça serait de réagir face à l'ouvrage dans son ensemble, comme il se donne et comme on le découvre quand on ne l'a pas écrit ou composé ou relu et re-relu pour arriver à l'éditer. Qu'est-ce qu'on découvre et comment on peut réagir face à l'ensemble qui est là. Ce sera le premier point. Le deuxième point que je voudrais aborder ensuite, ce serait de, finalement, ce qui peut-être me frappe le plus dans la lecture de cet ouvrage, c'est le caractère ternaire, constamment ternaire de la pensée de Lubach. Donc, peut-être quelques exemples pourront confirmer ce que je veux dire ici. Et puis, je finirai par quelques commentaires qui rejoindront peut-être des choses dites en conclusion par Bertrand Dumas sur la notion d'intériorité, avec un commentaire sur un point que Bertrand Dumas a eu l'élégance de m'attribuer dans l'ouvrage. Donc voilà, quelques réactions à propos de l'ouvrage pour commencer. Nous sommes devant le volume 6 des œuvres complètes, qui se trouve dans la section 2, voilà qui est précis, et section 2 intitulée « La foi chrétienne ». Et c'est que cette section se compose de deux volumes, le volume 5, qui reprend l'essai sur la structure du symbole des apôtres et quelques articles complémentaires, et puis ce volume 6, alors tu as dit 10 textes, moi j'avais compté 9, et quand je comptais chaque point j'en comptais 12, mais ça veut dire beaucoup de textes, voilà, que ce soit 9, 10 ou 12, c'est ce regroupement même. Interroge. On n'a pas un texte majeur, si ce n'est peut-être le premier décrit à l'instant, mais ce regroupement interroge. M'interroge en tous les cas comme lecteur et lorsque je découvre cet ouvrage et son assemblage. Et au fond, la question qui vient assez naturellement, c'est quels sont les motifs qui président à la composition de cet ouvrage, de ce volume. Sachant que Lubach lui-même, dans la constitution de l'édition italienne, avait déjà spécifié un certain nombre de choses et pas forcément exactement ce qu'on retrouve dans l'ouvrage. J'ai cru comprendre tout à l'heure que l'ensemble de recherches dans la foi avait été ajouté, inséré ici, et à mon avis à très très juste titre, mais voilà, donc il y a bien des ajustements qui ont été faits à partir de la version italienne, mais avec une version française qui excède peut-être ce que Lubach voulait ou prévoyait. Alors, on a eu le mot de pot-pourri, il est dans l'introduction, donc on peut le redire. Il y a une autre expression que je trouve plus aimable que pot-pourri peut-être, et qui dit bien comment on se confronte à cet ouvrage. Est-ce qu'on est ici, c'est page 33, devant l'art lubachien de la mosaïque? Et ma réponse serait oui, oui, parce que effectivement, on se dit comment tout ça tient ensemble, comment est-ce qu'on peut le lier ensemble. Est-ce que justement c'est une composition dont il faut voir la forme en prenant la bonne distance, hein. Une mosaïque, on la voit pas quand on voit les petites pièces, mais quand on est à la bonne distance. Et notamment, moi, ma question, c'est quel statut on peut donner à la troisième partie. La troisième partie, donc fécondité théologique et philosophique, qui regroupe quatre textes. Alors, avant même d'essayer quand même de donner des motifs positifs, de bonnes raisons pour ce regroupement, car je pense qu'il y en a naturellement, mais avant même cela, poussons encore un petit peu plus loin, ça a été dit et je le répète à ma manière, on a des textes de théologie spirituelle, on peut dire, tous ceux qui tournent très explicitement autour de la mystique. Bien, alors c'est mystique et mystère, c'est au moins deux des quatre éléments du dossier moral et mystique. C'est le texte sur Origène, dans Recherche dans la foi, voilà, des textes de théologie spirituelle. Bien, on a des textes de théologie fondamentale, mais quand on resitue bien les choses dans la carrière de Lubach, on pourrait presque dire qu'il faudrait plutôt les classer en littérature apologétique, qui porte sur la révélation. Par exemple, la discussion de l'argument ontologique du Prologion d'Anselme. Par exemple, évidemment, le débat dont on entendra parler sûrement tout à l'heure à propos de la révélation vue par Gilles Le Breton. Et puis aussi, toujours dans cette théologie fondamentale, mais apologétique aussi, ce qui tourne autour du dogme, le développement du dogme, hein, thème newmanien s'il en est. Et puis, autour de la philosophie, le lien philosophie-théologie. Donc, des textes de théologie fondamentale. Par ailleurs, des textes d'anthropologie, évidemment. Hein. Et puis, un ovni, mais évidemment c'est moi qui donne ce qualificatif, à savoir le dernier texte, intitulé « Création et Trinité », qui, au vu du titre, porte d'abord sur une thématique dogmatique. Donc je viens de parler de théologie fondamentale, mais là on a plutôt une thématique dogmatique, qui se trouve à la fin de l'ouvrage, et qui, peut-être, mais c'est au responsable de l'édition de le dire, ça serait pas à moi de le confirmer ou de l'infirmer, qui peut-être signe l'intention des responsables de l'ouvrage, du fait du choix parmi de nombreux inédits, naturellement, et du fait aussi de sa position en fin d'ouvrage. Je commenterai plus avant ce point-là, dans un moment. Donc, ce regroupement pose une vraie question. Alors, pour essayer d'avancer dans la question, quand même deux éléments que je peux développer maintenant, c'est l'objet de l'ouvrage, non pas simplement de tel ou tel texte ou de tel ou tel dossier, mais l'ouvrage même. Bertrand Dumas l'a très bien dit, l'objet de l'ouvrage, c'est la question des mystiques, naturelles et chrétiennes, de leurs liens et de leurs différences. Avec pour objectif, et objectif que je pense on peut qualifier d'anthropologique, qui est de dégager la clé d'unité de l'existence humaine, qui est de désigner une attitude existentielle, celle de l'homme devant Dieu, pour reprendre le titre des mélanges qui furent offerts aux jésuites en 1965, d'analyser en fait ce coram deo en tant qu'il conduit à désigner et une ouverture, toujours déjà donnée, même si elle ne se transforme pas, faute d'être connue, en un élan, un dynamisme d'orientation. Donc ouverture, parfois Lubach parle aussi d'empreinte. C'est, je pense, dans le mystère du surnaturel qu'on a ce mot-là particulièrement. Empreinte qui est donnée dans l'acte de création, qui est inaliénable, ouverture et empreinte, parce que, quelle que soit l'ampleur du péché, l'être humain est et reste image. Mais en même temps élan qui est du côté de l'humain, du côté de l'être humain, qui répond à cette ouverture dans un acte de reconnaissance, dépassant toujours le possible oubli, manifestant ainsi la constitution fondamentale de l'être humain. Donc ouverture inviscérée par acte de création et élan dynamique de réponse, qui peut ne pas avoir lieu évidemment, mais qui est la manière humaine d'assumer cette ouverture posée en création. Ouverture comme élan sont de toutes les mystiques. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour d'être dans un contexte chrétien ni même catholique pour repérer ouverture et élan. Mais la mystique chrétienne va précisément catholique. La nuance est sûrement à travailler. Peut-être ça sera une question dans le débat, dans la discussion entre nous plus tard. La mystique chrétienne va qualifier cette ouverture et cet élan. Va le qualifier en lien avec le péché, avec la possibilité de l'oubli, mais surtout pour le reformuler positivement et pour le reformuler, me semble-t-il, en spécifiant, en nommant le mode de rapport au mystère. Et donc on arrive au mystère, bien entendu, et on peut l'écrire avec un M majuscule, bien entendu. Et cela va être, et ça va être un des axes de mon commentaire pour ce soir, toujours en lien avec des médiations. Donc c'est pas un rapport au mystère, point. Ça va toujours être un lien au mystère, un rapport au mystère, médiatisé. Voilà l'objet de l'ouvrage. Alors, la structure de l'ouvrage, si l'objet et l'objectif sont bien ce que je viens de dire, ou à peu près, la question de la cohérence de l'ensemble reste bien une question. Deux remarques pour essayer d'avancer dans cette question à laquelle je ne prétends pas pouvoir répondre. Les responsables de l'édition ont sûrement d'autres choses à en dire. Mais deux remarques tout de même. La première remarque, c'est que, comme vous l'avez entendu, l'ouvrage se présente dans un certain ordre. Les documents, les textes, les dossiers sont dans un certain ordre. Mais j'ai regardé les dates de cette dizaine, on va dire comme ça, de cette dizaine de textes. Et au fond, en regardant un peu les dates, j'ai pointé, alors sous réserve de débat, hein, ça bien entendu, mais j'ai pointé trois groupes. Il y a les textes des années 30-40. Le plus ancien me semble être le texte sur Bergson. Ensuite, on a le texte sur la philosophie chrétienne. Ensuite, on a ce fameux texte sur création et trinité. Et il semblerait, j'ai lu l'introduction avec grande attention, il semblerait que l'ensemble du dossier moral et mystique commence dès les années 30. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, comment, est-ce qu'il y a des documents, des archives qui ont été trouvés, qui vraiment permettent de dater dès les années 30, parce qu'évidemment, ça va, c'est le genre de dossier qui se constitue dans le temps, donc la seule année 30 est insuffisante. Mais il n'empêche, il y a un ensemble, composé de quelques textes un peu disparates, j'en conviens, mais il y a un ensemble des années 30-40. Il y a un deuxième ensemble, qui serait plutôt autour des années 50, alors 48, 50, 55... D'abord le texte qui est paru dans les RSR en 48 justement sur le développement du dogme, ensuite l'analyse sur Origène, ensuite encore celle sur la doctrine de Le Breton, sur la révélation, et enfin en termes de date, le texte sur Anselme, sur le proslogion. Là on a un ensemble qui reste dispersé en termes de thèmes abordés, mais qui me semble être assez resserré, hein, c'est les années 48 à 55, et qui aborde les questions, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, les questions où en fait il y a une tension dans la compréhension entre la mystique chrétienne et le christianisme, le fait chrétien habituel. Et puis il y a un troisième groupe qui est plutôt les années 65. Les années 65, on va dire que c'est quand même des années dans le cadre conciliaire, hein, forcément. Et là, on trouve Mystique et Mystère, qui, certes, est finalement publié en 78 en italien et puis repris après en 79, et dans une version réaménagée dans l'édition qu'on a sous la main. Mais au fond, les antécédents de 64 et 65 sont déjà très consistants par rapport au texte qu'on a ici. Or, sa répartition. Donc je me demande si cette lecture simplement chronologique, hein, rien de plus, je me demande si ça peut pas être aussi une lecture de cet ouvrage, alors évidemment il faut naviguer dans le texte, mais c'est faisable, qui permettrait en fait non pas de commencer par Mystique et Mystère, mais d'arriver à Mystique et Mystère, comme effectivement toujours, je suis vraiment d'accord, le grand texte, mais le texte où les choses sont rassemblées, sont resserrées, les diverses sources et les divers éléments analysés sont au fond présentés de manière justement brève, donc relativement synthétique. On n'est pas devant un ouvrage en 5 volumes. Voilà. Donc voilà, hein, simplement en regardant les dates, on voit un petit peu autre chose se dessiner. Ma deuxième remarque, toujours sur cette question de la structuration de cet ouvrage, de l'ouvrage qu'on a ici, le volume 6, c'est en fait cette finale par ce texte, Création et Trinité, qui est un bref texte que personnellement je ne connaissais pas. Je ne l'avais jamais lu, jamais vu, et vraiment j'ai eu un grand bonheur, vraiment, à le lire, à le découvrir. On sait qu'habituellement, Lubach s'appuie sur une foultitude de sources historiques très bien maîtrisées pour produire une réflexion qui va toujours concerner finalement la rencontre entre les êtres humains et Dieu. Mais faisant cela, et je rejoins des choses qui ont été dites d'une autre manière tout à l'heure, faisant cela, il ne se cantonne jamais à une simple démarche apologétique, mais il associe toujours des éléments de théologie dogmatique, et en l'occurrence, évidemment, d'abord et essentiellement le mystère du Christ. Or, dans Création et Trinité, sans perdre le Christ de vue naturellement, Lubach intègre à une réflexion qui pourrait n'être que théologique au sens Dieu créateur en tant qu'un, et anthropologique au sens l'homme en tant que créé, eh bien il associe la réflexion, la dimension trinitaire, et non pas sous le mode simplement illustratif, mais comme structurante du propos. C'est par la compréhension d'un Dieu trine qu'il dit quelque chose de la création. Et si on se redit que ce texte a été écrit, d'après sa datation, hein, en 1939, on a, me semble-t-il, sous les yeux un des éléments de renouveau de la doctrine de la création, qui actualise évidemment des perspectives patristiques, mais qui est une nouvelle manière d'entrer dans cette doctrine au milieu du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, et qui pour nous aujourd'hui est un acquis, mais qui n'était pas du tout un acquis il y a 70 ans ou plus. De mon point de vue, c'est tout à fait remarquable, et ce qui est remarquable aussi, c'est de choisir de l'éditer en conclusion de cet ouvrage. Car qu'est-ce que ça pointe, selon moi, était-ce dans l'intention des responsables, à eux de le dire. Mais ça pointe, selon moi, que la mystique chrétienne est bien un point de vue sur l'acte créateur de Dieu. En ce sens, création et trinité est à sa place. Ça nous permet aussi, me semble-t-il, d'élargir la compréhension, à la connaissance de l'œuvre et de la pensée d'Henri de Lubac, pour comprendre notamment que ce sujet, création-trinité, est déterminant chez lui. Il s'agit de placer l'ouverture et l'élan, qui sont bien la manière commune de penser la mystique, en tant qu'éléments principaux de l'acte créateur, et de les placer dans une forme chrétienne, qui est celle de la relation et de l'altérité en liberté. La visée d'union n'est pas une visée d'identification, mais la forme d'union qui se révèle justement lorsqu'on réalise que, et je cite Lubac dans une très belle formule, on réalise que l'unité divine est une unité de circumincession. Et ce qui lui permet de faire tout un débat sur, mettre en débat, en tous les cas, la notion de nature divine dans ce texte-là. J'avance un peu et j'en viens à ce deuxième commentaire que je souhaitais faire ce soir. C'est cette perspective résolument, constamment ternaire. Parce que si la structure trinitaire est si fondamentale, je viens de le dire, y compris donc dans l'acte créateur, mon deuxième commentaire vient comme naturellement, le constat du caractère ternaire du propos de Lubac. Alors ça, évidemment, au premier chef, ça se voit. Ça se lit en tous les cas dans sa défense, et sa défense à travers tous les siècles, de l'anthropologie tripartite, en appui sur la première aux Thessaloniciens, et qui lui permet au fil de l'histoire de rétablir un être humain comme corps, âme et esprit, et pas seulement comme corps et âme, de sorte que son insistance sur l'esprit l'amène à remettre à l'honneur une anthropologie qui distingue âme et esprit, et à définir l'esprit non pas par l'intelligence ou la volonté, mais comme le lieu, des guillemets tout de même, de la mystique, autrement dit comme la possibilité réelle en l'être humain de la rencontre avec Dieu. En somme, un être humain capable de Dieu, capax Dei, par l'esprit, par son esprit. L'anthropologie tripartite ouvre avec évidence à une compréhension ternaire, mais l'intérêt de la reconfiguration du dossier, comme tu as été dit tout à l'heure, dans cet ouvrage, l'intérêt de cette reconfiguration et la publication d'inédits en français, qui existait en italien, mais qu'on n'avait pas en français, et en plus le décalage d'un sous-chapitre qui s'appelle « Synthèse catholique », fait apparaître vraiment d'une manière très nouvelle, me semble-t-il, très déterminante, le fait qu'il y a d'autres ternaires. Il y a ces fameux trois éléments qui ont été dits il y a une minute aussi, religion, morale et mystique, qui structurent en fait cette série de textes et la recomposition du dossier. Avec ces triplets, donc corps, âme, esprit, religion, morale, mystique, on comprend quelque chose de la position de Lubac, qui s'éclaire quelque chose de sa position. Et peut-être je peux formuler cela de la manière suivante, il estime et il défend l'idée qu'aucun équilibre véritable, le mot équilibre chez lui est répétitif en fait dans le texte, aucun équilibre véritable n'est à chercher dans le dépassement de l'un par l'autre ou dans la synthèse. Alors, un texte qui s'intitule « Synthèse catholique » pourrait nous faire croire qu'on va chercher une synthèse dialectique, mais pas du tout. C'est bien une synthèse catholique, c'est-à-dire une synthèse qui cherche à tenir le tout selon le tout, catholique en somme. L'équilibre donc réside dans les rapports maintenus entre les trois. Donc, corps, âme, esprit, religion, morale mystique. Ce qui finalement nous en apprend beaucoup sur la place et la fonction de la mystique chrétienne. La mystique, et en ce sens, elle n'est pas seulement mystique naturelle, dialogue sans cesse avec la morale et avec la religion. Elle ne les dépasse pas, sinon, justement, elle deviendrait du mysticisme. Autrement dit, une mystique naturelle. Ni séparation, ni exclusion. Voilà une expression de Lubac. Là aussi, on voit que la forme est ternaire, qu'elle doit le rester. Il n'y a pas de d'aufhebung à espérer. À cet égard, je ne peux m'empêcher de rappeler la conclusion de l'encyclique Laudato Si, du pape François, que tout le monde, je pense, a en tête, qui lui se réfère à saint Bonaventure, et qui rappelle, comme justification de tout son propos dans Laudato Si, que, je cite le pape François ici, que pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire, incite à penser que toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire. Toute créature porte en soi une structure proprement trinitaire, et c'est pourquoi le monde est envisagé comme un tissu de relations. C'est les numéros 239 et 240. Il continue, le pape, le défi est donc d'essayer de lire la réalité avec une clé trinitaire, et le défi est que la créature perçoive, dans sa propre existence, le dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Ouverture et élan, à mon avis, sont là, avec d'autres mots naturellement, mais sont là. On voit donc que ce point de vue sur la création, qui est bien différent de celui des mystiques naturels, est caractéristique, me semble-t-il, de la pensée de Lubach et va avoir un lien avec notre compréhension de la mystique chrétienne. Le dernier point que je voudrais aborder, si j'en ai le temps, 5 minutes, c'est possible, merci beaucoup, c'est que justement, en poursuivant en ce sens, on peut aborder un dernier point qui va porter sur l'intériorité, qui est comme un pléonasme, on pourrait dire, pour parler de la mystique. Il est évident pour tous que quand il y a de la mystique, il y a de l'intériorité. Bon, oui, bien entendu, hein, bien entendu. Oui, mais qu'est-ce que c'est chez Lubach? Effectivement, Lubach insiste à longueur de ses divers textes sur une proximité entre mystique naturelle et mystique chrétienne. En ce sens, j'ai envie de vous livrer une incise qui est dans son texte. Si Sainte Thérèse d'Avila n'avait pas été chrétienne, aurait-elle été moins mystique? Réponse, non. Alors, non, mais peu importe. Donc, il renvoie le problème. Mais il n'empêche que il prend bien, dans cette recherche de proximité, il prend bien comme caractère commun l'élan dynamique de l'humain, la capacité d'accueil du don divin, inviscéré dans l'humain, une aspiration inhérente à l'être humain, et un certain rapport au divin, toujours quand même compris comme mystère. Mais là, on va écrire avec un M minuscule. Bon. Mais le propos de la mystique chrétienne est alors, me semble-t-il, justement son mode de rapport au mystère. De nombreuses pages de cet ouvrage, et plus largement, je pense, de l'œuvre de Lubach, montrent que c'est un rapport qui doit être constamment et définitivement médiatisé. Alors, par l'histoire, par l'écriture, par les sacrements, par l'Église, par, comme le dit la conclusion, le dernier chapitre de Histoire et Esprit, par toutes les incorporations du Verbe. Et donc, bien sûr, par le Verbe. Je vous rappelle que dans Histoire et Esprit, il y a aussi comme incorporation l'âme et l'univers. Alors, sans du tout prétendre résumer mystique et mystère, ça a été fait tout à l'heure, et puis je pense que chacun peut faire son propre résumé, je proposerais donc bien volontiers de retenir le point suivant. La mystique chrétienne est caractérisée par la reconnaissance et le maintien des médiations. À l'inverse des mystiques naturelles, on n'est jamais dans la prise directe, on est toujours dans le passage par. Alors, si cela est vrai, est-ce qu'on est capable de tenir cette affirmation jusqu'au bout? Si cette insistance sur la médiation est juste, ne faudrait-il pas penser jusqu'au bout cette nécessité de la médiation et montrer en quoi elle est aussi pertinente à propos d'un terme qui semble si facilement qualifier les mystiques naturelles, comme la mystique chrétienne d'ailleurs, à savoir le terme d'intériorité. Au fond, pour formuler une question un peu provocante, comment penser une intériorité médiatisée, si on ose cette formule? Il me semble que Lubach, sous 1000 formulations, n'arrête pas de chercher cela. Il s'agit de la recherche de l'intériorité, comme le fait n'importe quel mystique, mais marquée par une anagogie, pour reprendre les termes des 400 de l'écriture, qui ne perd jamais ni la littéralité, ni l'allégorie, ni l'anthropologie. Donc qui, au contraire, les réalise leur perfection. Tout réside, me semble-t-il, pour Lubach, dans la qualification de ce qui est cherché. Je le cite, il s'agit d'union et donc non d'absorption, d'unification et non d'identification. Il s'agit d'une expérience mystique qui n'est pas un approfondissement de soi, mais qui est au plus intime de son être, approfondissement de la foi. Donc qui détache radicalement le mystique de la recherche de soi, et qui, pour Lubach, va être la recherche de la ressemblance, l'union de ressemblance qui, justement, ne se limite pas à une mystique de la seule image. À lire ces divers textes, on voit que l'image de la nourriture vient éclairer le propos de manière quasi constante. Les mots nourrir, nourriture, aliment, ingérer sont présents d'une manière étonnante dans un texte sur la mystique. des textes sur les mystiques. Et alors que pour les mystiques naturels, l'intériorisation parfaite supprime tout ce dont elle se nourrit, c'est une citation de Lubac qui fait un commentaire à propos du Bouddha, eh bien il estime que l'intériorisation, comme l'intériorité chrétienne, ont toujours à être médiatisées par la foi, qui est donnée, reçue, externe, comme une nourriture à ingérer, à faire sienne, sans que pour autant on devienne cette nourriture. Le fait du Christ, le mystère du Christ, qui est notre nourriture, nous reste autre. L'intériorité se discerne dans la réalité donnée à l'extériorité, se réalise dans la place qui est donnée à l'extériorité. L'intériorité ne va pas sans l'extériorité du mystère et de la foi. Si de fait, dans la vie mystique, l'intériorité est sine qua non, c'est-à-dire que les éléments sont à assimiler, c'est à condition, pardon, que les éléments à assimiler restent extérieurs, et que cette assimilation aboutisse au sens propre à une extase, à une exode, un exode, un sorti de soi. Lubac a cette phrase là aussi très remarquable, semble-t-il. La foi dans le mystère renvoie le mystique hors de lui. En conclusion, j'oserais dire que la pensée de Lubac est ici d'une grande actualité, des éléments ont été portés en ce sens-là, dans un moment où nous sommes peut-être plus facilement spirituels que dans les décennies passées, où l'athéisme n'était même plus un drame, mais où nous sommes totalement individualistes, refusant les médiations, faisant notre petite affaire personnelle de la mystique. C'est là que la formule de Michel de Certeau, et pourquoi pas le citer aussi maintenant, le passant, donc la mystique mais pas sans médiation, trouve toute sa pertinence. Je vous remercie.
Voilà, merci beaucoup pour cette intervention. Ça peut aider à réfléchir sur la cohérence de ce volume, et puis sur le rythme ternaire qui est de fait très très frappant, en particulier à travers le texte Anthropologie tripartite, mais aussi à travers d'autres écrits qui sont dans ce volume. Et puis merci pour la réflexion finale sur la caractéristique finalement de la mystique chrétienne selon Henri de Lubac, hein, avec la réflexion sur la reconnaissance des médiations. Dans ma propre intervention, je voudrais avant tout dire ma gratitude à Bertrand Dumas pour le travail considérable qu'il a effectué en vue de ce volume. Je crois qu'il était particulièrement difficile d'éditer un tel ouvrage, entre autres parce que cet ouvrage ne reprend pas un livre, contrairement à la plupart des autres volumes des œuvres complètes. Il reprend une série de textes qui sont fort différents les uns des autres, même s'ils engagent tous la question de la mystique ou du rapport entre mystique et mystère. Mais aussi parce que les questions abordées sont des questions elles-mêmes difficiles et qu'elles demandent nombre d'explications qui sont précisément données, en particulier dans la longue présentation qui ouvre le volume. Donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble de l'ouvrage, hein. Je risquerais de répéter ce qui a été déjà dit sur tel ou tel point. J'ai eu l'idée par contre de me concentrer brièvement sur l'un des textes, un seulement, l'un des textes ici rassemblés, et probablement l'un des textes les moins connus du père de Lubac, le texte intitulé « La doctrine du père Le Breton sur la révélation et le dogme d'après ses écrits anti-modernistes ». Naturellement, le texte « Mystique et mystère » dont on a beaucoup parlé est beaucoup plus important, de même aussi le texte « Anthropologie tripartite ». Et j'aurais pu aussi, bien sûr, choisir parmi les autres textes l'étude sur Origène, que je goûte particulièrement. Mais j'ai préféré retenir un écrit qui, à travers son objet même, et à travers les circonstances particulières de sa rédaction, me semble très révélateur des vues du père de Lubac sur les dogmes, et, par cette voie même, de ses vues sur le rapport entre mystique et mystère. Et dans ce texte sur le père Le Breton, doit être replacé dans son contexte, et vous trouveriez des pages fort éclairantes à ce sujet dans le tome 3 de la grande biographie du cardinal de Lubac, le tome 3 qui a été rédigé par Marie-Gabrielle Lemaire, que je suis heureux de saluer, qui est présente parmi nous. Le texte sur le père Le Breton, dans ce volume, porte en fait sur la pensée d'un homme qui a tenu une place fort importante dans l'enseignement de la théologie. Le père Jules Le Breton, jésuite, né en 1873, mort en 1956, donc appartenant à la génération précédant celle du père de Lubac. Jules Le Breton était professeur de théologie, exactement d'histoire des dogmes et puis des origines chrétiennes à l'Institut catholique de Paris. Il fut d'ailleurs, à un moment, il fut doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Il enseignait surtout sur les origines chrétiennes et il publiait en particulier un ouvrage très important de théologie historique, Les origines du dogme de la Trinité. Il faut rappeler que les premières années du XXe siècle avaient été marquées par la fameuse crise moderniste. Et Jules Le Breton intervint lui-même dans cette crise à travers un certain nombre d'articles dirigés contre le modernisme sous sa forme extrême. Or, plus tard, dans les années 1930, plutôt 1940-1950, à l'époque d'ailleurs où Henri du Lubac et d'autres étaient eux-mêmes soupçonnés d'hétérodoxie, Jules Le Breton fut lui-même soupçonné rétrospectivement de connivence avec le modernisme. Et c'est dans ce contexte qu'Henri de Lubac prit la plume et voulut rendre hommage à son confrère de la génération précédente. Et ce fut ce fameux texte, La doctrine du Père Le Breton sur la révélation et le dogme, d'après ses écrits antimodernistes. Henri de Lubac écrivit ce texte en 1951, mais le texte fut soumis à la censure, ce qui était normal, mais il fut refusé. Il fut refusé et donc il ne put pas être publié. Et ce texte resta inconnu des lecteurs du Père de Lubac, et cela fort longtemps, car c'est seulement une quarantaine d'années plus tard, en 1990, un an avant sa mort, que le Père de Lubac publia ce texte dans son ouvrage « Théologie d'occasion ». Dans ce texte, le Père de Lubac rappelle d'abord l'engagement qui fut celui du Père Le Breton dans sa lutte contre le modernisme. Un engagement qui, toutefois, n'a pas empêché le Père Le Breton d'être, comme son confrère le Père Léonce de Grandmaison, très soucieux d'études approfondies sur l'histoire des doctrines chrétiennes et plus largement des études dans le champ des sciences religieuses. C'est dans cet esprit d'ailleurs que furent fondées en 1910 les recherches de sciences religieuses dont le Père Le Breton fut un moment le directeur. Mais le Père de Lubac s'intéresse de manière privilégiée aux vues de son confrère Le Breton sur la révélation, sur le dogme, sur la théologie. Et on comprend pourquoi. Puisque paradoxalement, ce sont ces vues mêmes de Jules Le Breton qui avaient été d'abord développées dans des écrits antimodernistes et qui ont valu par la suite à Jules Le Breton des griefs de connivence avec le modernisme. De quoi s'agissait-il en réalité? Quel était l'enjeu? Eh bien, les modernistes les plus engagés, je veux dire modernistes extrêmes, au début du XXe siècle, mettaient en question l'autorité des dogmes, cela pour des raisons d'ailleurs assez diverses. Par exemple, certains d'entre eux percevaient avant tout ces dogmes comme des affirmations désuètes. Dans d'autres cas, la critique, le refus de l'autorité dogme venait de ce que les modernistes considéraient ces dogmes comme ne pouvant pas rendre compte du mystère de Dieu, et plus largement, ne pouvant pas rendre compte des mystères jugés inaccessibles au langage humain. Et le père Jules Le Breton, à cette époque, début du XXe siècle, avait réagi en faisant valoir que Dieu a parlé aux hommes et que les dogmes ont bien valeur de vérité. Certes, ajoutait-il, et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'on l'ait par la suite accusé de connivence avec le modernisme, il ajoutait que les formules dogmatiques sont elles-mêmes inadéquates à leur objet. Mais, disait-il, le croyant devait néanmoins s'y attacher, car à travers elles, c'est bien la vérité qui était visée. Henri de Lubac montre ainsi, dans son texte, que le père Jules Le Breton se battait en quelque sorte sur deux fronts. Avant tout, dans le cadre de la lutte antimoderniste, Jules Le Breton soulignait l'importance et même la nécessité des dogmes auxquels les catholiques devaient adhérer. Mais d'un autre côté, Jules Le Breton avait le souci de montrer que les formulations doctrinales, bien comprises, ne sont pas à prendre comme des formulations qui, en quelque sorte, épuiseraient leur objet, et qu'elle ne dispense pas d'un élan spirituel vers le mystère, un élan spirituel vers le mystère. Ainsi, pour Jules Le Breton, tel que le présente Henri de Lubac, la foi chrétienne est d'un côté adhésion à à une réalité, elle est la perception d'un fait, le fait central du Christ, et en même temps, d'un autre côté, elle est, dit-il, l'élan d'un engagement personnel envers une personne, et non pas la simple affirmation d'une vérité impersonnelle. Naturellement, si la foi est un tel élan, elle n'en est pas moins un acte de l'intelligence. Le Christ est la vérité. Mais Jésus n'est pas seulement le maître, il n'est pas seulement le didascale, il est d'abord celui que les disciples ont vu, celui en qui ils ont cru. La foi, disait Jules Le Breton, est une perception qui certes s'exprime à travers des concepts, à travers des notions, à travers des formulations doctrinales, mais qui agit sur ces concepts, qui agit sur ces formulations et qui les transforme. Et c'est ainsi que se constitue une connaissance religieuse qui vient de la révélation elle-même. Pour résumer donc, nous recevons bien les vérités enseignées par l'Église, nous devons les recevoir, sur ce point Jules Le Breton prend position contre le modernisme sous sa forme extrême, nous recevons les dogmes, mais d'un autre côté, notre soumission à ces dogmes ne doit pas être extrinsèque, elle opère en nous, elle doit opérer en nous une participation à l'expérience même de la foi de l'Église. Naturellement, dès le commencement, la foi s'est traduite en énonciables, en des vérités. Mais ces vérités sont comme une objectivation de la foi qui, elle, dit Le Breton, est avant tout une adhésion personnelle au Christ et par le Christ à Dieu. Ce qu'on appelle le dépôt de la foi, justement c'est un dépôt, mais ce qui est premier, c'est le Christ. Et c'est en lui que tout a été donné. Et donc tout à la fois, on doit reconnaître que les vérités de la foi ne sont pas secondaires ni facultatives, et que néanmoins, elles représentent, comme dit le père du Lubac, en résumant la pensée du père Le Breton, elles représentent comme un état second de la foi, et il profite de l'occasion, père du Lubac profite de l'occasion pour dire, ceux qui, comme nous, connaissent un plus grand nombre de dogmes, ne sont pas pour autant plus croyants que les apôtres. La multiplicité de leurs énoncés n'ajoute rien à la foi elle-même. Le rôle des énoncés, le rôle des dogmes, c'est plutôt d'écarter les erreurs et c'est de mettre en évidence les implications ou la portée de la foi. Mais ce n'est pas de se substituer à la foi elle-même. Il faut donc d'un côté refuser une interprétation minimaliste des dogmes, comme si les dogmes n'avaient guère d'importance, mais il faut aussi rejeter une interprétation maximaliste qui ferait oublier ce qui est le plus fondamental, à savoir l'élan de la foi vers le mystère du Christ. Et par là, c'est clair un problème qui est souvent posé. On fait valoir, dit le père du Lubac, on fait valoir que les définitions doctrinales sont parfois compliquées, très techniques, et l'on ajoute qu'elles sont tributaires d'époques qui ne sont plus les nôtres. Henri du Lubac répond, à la suite de Jules Le Breton, certes, il ne s'agit pas de nier que certains concepts sont difficiles. Il donne l'exemple du mot consubstantiel et aussi d'autres mots comme hypostase ou transsubstantiation. Simplement, dit-il, l'usage de tels concepts était nécessaire à certaines époques et à travers eux se disait quelque chose qui reste tout à fait essentiel. Mais la vérité qui est visée à travers ces concepts dépasse bien évidemment les formulations qui tentent d'en rendre compte. Henri du Lubac montre que Jules Le Breton a illustré cette vision des choses à travers sa fameuse histoire du dogme de la Trinité. Certes, le dogme emprunte des catégories à l'hellénisme, mais il n'en est pas pour autant prisonnier. Et à travers l'usage qu'il fait de certaines catégories, il renvoie en réalité à la foi. C'est pourquoi la théologie ne peut pas se satisfaire d'un système, parce que l'objet dont elle traite déborde toujours les systèmes qui prétendraient l'enfermer. Et le père du Lubac cite à ce sujet une belle page de Jules Le Breton. Le dogme est un message divin et il nous fait participer à la science divine. Il nous fait voir les vérités religieuses par l'intime comme Dieu les voit. Or, s'il est un mode de connaissance qui porte l'empreinte de notre infirmité humaine, c'est le système. En parlant ainsi, je ne pense pas le déprécier, encore moins le condamner. Encore est-il que même dans ses réussites, le système accuse plus qu'aucun autre mode de connaissance les défauts natifs de notre raison, il ne saisit des choses que par fragments et du dehors. Et à cela, au système, s'oppose, selon Jules Le Breton, la connaissance religieuse, je cite, « La connaissance religieuse, née de la foi, pénètre l'âme comme la voix de Dieu, recueillie et profonde. La connaissance systématique n'a point cet accent, c'est un discours humain qui résonne et s'agite à la fine pointe de notre esprit. Il absorbe là toute notre attention, mais il ne pénètre pas dans ce sanctuaire intime de l'âme où Dieu réside. » Et c'est aussi pour cette raison que Jules Le Breton, tout en louant l'importance capitale de Thomas d'Aquin, soulignait également l'importance qu'il y avait à recueillir les approches d'auteurs plus anciens des Pères de l'Église. Certes, Henri du Lubac reconnaît, au terme de son étude, que l'œuvre de Jules Le Breton avait des limites, en particulier pour élucider la question de savoir si les affirmations dogmatiques ne font que protéger une vérité ou si elles proposent elles-mêmes une vérité, il aurait fallu développer davantage une philosophie du langage. Mais Jules Le Breton en était conscient, le père Dubac souligne simplement que sa discipline à lui, c'était avant tout celle de la théologie historique. Il considérait que sa tâche était de puiser dans la tradition ancienne en amont des synthèses ultérieurement élaborées par la théologie dogmatique. Ce que Jules Le Breton voulait avant tout, c'était montrer le vrai sens de cette tradition. Et Henri Dulbach termine son article en soulignant la justesse de la posture théologique qui fut celle de son confrère. Le texte que j'ai présenté serait bien sûr à compléter par d'autres textes, en particulier un autre texte important du volume, le texte sur le problème du développement du dogme. Et on trouverait aussi des développements parallèles dans plusieurs livres du père Dulbach, comme par exemple « Sur les chemins de Dieu » ou encore « La révélation divine ». Mais j'ai voulu, dans cette brève intervention, privilégier ce texte parce qu'il montre vraiment comment, à travers une question spécifique, la question du statut des énoncés doctrinaux, il engage en fait toute la conception du père Dulbach sur le mystère et sur la mystique. À la suite de Jules Le Breton, Henri Dulbach tient certes que la foi ne peut pas être dissociée des formulations qui cherchent à en rendre compte, mais paradoxalement, il montre aussi que la foi ne peut pas être pour autant confondue avec les formulations qu'il exprime. Point de séparation, donc, mais point de confusion. Et ce qui est sous-jacent à cette conclusion, c'est précisément la relation entre l'objet de la foi et l'expérience mystique. D'un côté, les formulations rendent bien compte du Christ et du Dieu de Jésus-Christ, mais d'un autre côté, le mystère du Christ, le mystère du Dieu de Jésus-Christ, ne se laisse pas emprisonner dans des énoncés. Il transcende toujours ces énoncés, en sorte que la foi n'aura jamais saisi de le saisir, ce qui est le sens même de la mystique chrétienne. L'article sur la doctrine du père Le Breton a une portée qui, en fait, déborde de loin les circonstances des controverses suscitées par la crise moderniste. S'il fallait donner simplement un exemple pour illustrer son enjeu, je rappellerai volontiers les débats soulevés il y a 4 ou 5 ans par l'insertion du mot « consubstantiel » dans le credo. Là où on disait auparavant que le Fils est de même nature que le Père, on a réintroduit le terme qui traduit littéralement l'homousios du Concile de Nicée. Le Fils est consubstantiel au Père. Il y a l'article du Père de Lubac qui aide à comprendre le statut exact de ce mot consubstantiel. On ne peut évidemment nier que ce mot est apparu à un moment donné de l'histoire et qui n'est pas immédiatement parlant de nos jours. Mais ce serait une erreur d'en adduire qu'il doit être du même coup abandonné, car en fait, à travers sa particularité même, ce mot entend justement dire quelque chose d'essentiel à propos du Christ, qui est un seul être avec son Père. Simplement, il est essentiel d'ajouter aussitôt que le mot consubstantiel n'entend pas pour autant mettre la main sur le mystère, et qu'il en appelle bien plutôt à l'expérience du croyant qui est toujours en route, toujours en pèlerinage vers une connaissance profonde du mystère ainsi désigné. Je termine par une remarque qui est aussi une question concernant la définition même de la mystique. La pensée du père de Lubac, dans cet article sur le père Le Breton, comme dans son texte « Mystique et mystère », la pensée du père Lulbach semble en quelque sorte mettre la mystique du côté de l'élan toujours inachevé vers cet ineffable auquel renvoie le mystère du Christ. Et certainement cette orientation était essentielle pour dissiper les malentendus à propos des dogmes dans lesquels les courants modernistes ne voyaient souvent que des affirmations abstraites et en quelque sorte figées. Mais on pourrait poser la question, est-ce que la mystique ne serait pas à mettre aussi bien du côté de l'avènement d'une parole, et donc, dans le cas présent, du côté de l'expérience par laquelle on en est venu précisément à nommer le mystère et à le formuler à travers des énoncés, y compris des énoncés doctrinaux. Certes, la foi transcende de tels énoncés, et l'on n'aura jamais fini de marcher par-delà ces énoncés sur les chemins de Dieu au-delà de tout langage. Mais la foi est aussi, et même d'abord, ce qui suscite la genèse même de tels énoncés. La foi est ce qui donne de faire advenir au langage des mots, des expressions, qui, si pauvres soient-ils, entendent justement témoigner de la vérité. La mystique est certainement liée au dépassement des énoncés, au profit de la réalité qui transcende tout langage. Mais est-ce qu'elle n'est pas également liée au mouvement inverse ? Par lequel des croyants font l'expérience de désigner, tant bien que mal, cette réalité même qui est irréductible à ses propres énonciations. Peut-être cette question trahit-elle en fait la préoccupation d'un enseignant de théologie. Peut-être trahit-elle la préoccupation de quiconque enseigne cette matière et qui, tout en sachant la pauvreté de ses mots, ne peut néanmoins se dérober à la tâche de parler. Jules Le Breton, lui-même enseignant, en était en tout cas très conscient. Il écrivait ceci. Quand on écrit pour des âmes dont la foi est en jeu, le problème devient souvent plein d'angoisse. Ministre du Christ et responsable de sa doctrine, on a peur ou d'en trahir par complaisance la vérité intégrale ou d'en compromettre par des systèmes humains l'autorité divine. Guide des âmes, on craint ou d'appauvrir en elles la foi chrétienne dont elles doivent vivre ou de la leur rendre intolérable par des exigences injustifiées. Et le père Dulbach, qui cite ces lignes, ajoute à son tour, vers la fin de son article, « Heureux, malgré ses angoisses, le théologien qui, dans les temps de crise, comprend ainsi son rôle. Heureux dans cette anxiété même, dans cette perplexité qui le garde également contre des excès inverses, mais également redoutables. Heureux, malgré la méfiance des inimitiés que son attitude lui vaut presque à coup sûr, celui qui réalise dans un équilibre aussi mesuré le type d'homme d'église. Heureux celui dont on peut dire qu'il ne cherche pas le succès de ses propres idées, mais même lorsqu'il ne peut s'abstenir de s'engager tout entier dans une lutte, il ne cherche ni l'avantage d'une consécration officielle, ni les applaudissements des violents, mais le service de la vérité divine, de cette vérité qui vit dans les âmes. » Il me semble qu'on ne saurait mieux dire que la relation du mystique, de la mystique et du mystère se joue, entre autres, dans l'expérience même du travail théologique. Et le texte du père Dulbach sur la doctrine du père Le Breton le fait à sa manière discrètement sentir. Et c'est aussi pour cette raison que nous pouvons être très reconnaissants à Bertrand Dumas d'avoir réédité ce texte dans ce beau volume « Mystique et mystère chrétien ». Merci.
On va prendre maintenant quelques minutes pour un échange. Il y a peut-être des questions qui...
Merci beaucoup et bravo à vous trois pour cette magnifique présentation. J'aurais une question par rapport au caractère spécifiquement catholique. J'ai trouvé que très intéressant effectivement de souligner dans la tradition chrétienne cette articulation, cette unification entre religion, morale et mystique. Bertrand, dans ton exposé, tu as beaucoup souligné que c'était spécifiquement catholique. J'aurais aimé qu'on approfondisse un peu cela. Pour donner du grain à moudre, il y avait dans l'intervention de Brigitte, justement, ce point d'attention à la nécessité des médiations. Donc, je fais le rapprochement avec le fait que la mystique chrétienne, effectivement, se déploie nécessairement par des médiations et que c'est un point par lequel la mystique chrétienne se différencie de la mystique naturelle. Peut-être que, voilà, avec ce rapprochement, il y aurait matière à réfléchir sur cette spécificité catholique. Mais...
Merci pour cette question. Vous m'entendez ? Oui. Il faudrait revenir plus précisément au texte du père de Lubac, mais c'est vrai qu'à la fois, c'est pas catholique dans un sens seulement exclusif, puisque c'est vraiment le mystère du Christ hein, qui tend en fait à maintenir uni ce qui, naturellement, aurait tendance à être disjoint dans l'expérience humaine. Mais peut-être ce qui, dans ce que j'ai compris pour le père de Lubac, il y a une attention proprement catholique à cet équilibre qui fait qu'en fait, concrètement, on ne mettra pas tant des « ou » que des « et ». Hein, c'est pas la mystique ou la religion, avec tout ce qu'elle a, c'est la mystique et la religion. C'est pas la mystique ou la morale. Et moi, je suis frappé donc de cette attention particulière, en fait, à ce qui, dans le mystère du Christ, vient rejoindre l'humain, et aussi à l'actualité de la chose, hein, parce qu'on voit très bien cette force de la mystique qui peut être aussi comme une espèce de torrent qui emmène tout, qui fait sauter toutes les digues, y compris les digues, j'allais dire, de la réflexion humaine, de la morale. Et c'est dans La postérité spirituelle de Joachim Flor, hein, l'énorme ouvrage en 2 volumes magnifique, que le père de Lubac montre bien dans ses illuminés, notamment du Moyen-Âge, mais pas que, combien en fait le mysticisme peut voisiner par exemple avec l'orgie. Et on le sait bien, et on l'a constaté encore, nous, très récemment, hein, que les doctrines soi-disant les plus mystiques peuvent cohabiter, en fait, avec une absence totale de caractère moral. Donc c'est cette attention plus particulièrement catholique que signe père de Lubac.
Merci de la question, Marie-Gabrielle. Je veux bien dire 2 choses. C'est, d'abord, je pense que chez Lubac, il faut toujours être prudent sur le sens du mot catholique. C'est d'abord le selon le tout, hein, le tout prendre, tout tenir, et donc ne pas être en « ou » mais être en « et », c'est tout à fait ça. Donc c'est vraiment le sens catholique le plus... Et c'est catholicisme aussi, hein, c'est la même chose. Et non pas seulement la dimension confessionnelle. Mais la deuxième point que je voudrais rappeler, c'est que dans cet ouvrage, mais dans beaucoup d'autres encore, mais cet ouvrage tout particulièrement, je trouve... Dans cette série d'œuvres rassemblées, il y a de nombreux débats avec les positions protestantes et qui sont des débats où il manifeste bien sont des formes de désaccord, des points de désaccord. Et je crois que le fait même d'aborder le thème de la mystique, alors de diverses manières, on a entendu beaucoup de points de vue et c'est heureux, bien sûr. C'est en soi un débat avec le monde protestant, avec la pensée réformée. C'est en soi, la chose même mystique, c'est en soi une question. Et c'est en fait une question, alors Lubac va pas jusque ce point-là, mais dans certains points de débat avec Karl Barth notamment, on le voit très assez précisément, c'est vraiment la manière de penser l'être humain pécheur. Pécheur jusqu'où, en fait S'il y a ouverture et élan, il faut bien qu'il y ait forme de bonté, pas dévoré par le péché, par le refus de Dieu donc, hein, qui soit encore présent à l'être humain. Et c'est l'écart qui fait aussi, Lubac, je pense, entre image et ressemblance. C'est aussi pour ça qu'il y a une dynamique entre les deux et que c'est pas 2 mots qui, grosso modo, seraient synonymes. Donc c'est une vraie question qui à la fois est confessionnelle et en même temps catholicos. Il me semble qu'il y a les 2 niveaux.
Autre question ? Oui. Merci beaucoup. Une question de Béotien. Si à travers tous les âges, comme vous l'avez dit en introduction, il y a tellement de méfiance par rapport à la mystique, et si le père de Lubac et vous trois avez raison, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a cette méfiance.
Michel, allez-y.
Je vais tenter quelques mots et puis vous compléterez Michel. Je pense que vous avez plus de hauteur de vue que moi. Il me semble qu'il y a plusieurs éléments. Il y a, entre autres, le fait quand même qu'aujourd'hui, quand on parle mystique, c'est souvent une caractérisation qui est moderne. ce que le père de Lubac appelle une mystique séparée, c'est-à-dire où on met en évidence une certaine intensification, où on met en évidence une forte subjectivité, où on met en évidence comment cette mystique va soumettre le langage à des tensions extrêmes, avec du coup l'usage de formes tout à fait particulières, et que c'est particulièrement cette forme, j'allais dire, qui détachait du mystère du Christ exprimé dans l'histoire, hein, les fameux quatre sens de l'écriture. En fait, disons, il y a plusieurs manières de vivre la mystique, et cette mystique, quand elle se détache et du substrat qu'est le Christ et de ses médiations, que sont notamment l'écriture, effectivement, commence à vivre une vie volontiers séparée et problématique. C'est d'ailleurs pourquoi le père de Lubac, quand il refait un peu l'histoire de la mystique, l'accroche très volontiers à tout ce qui est sacramentel et scripturaire. J'ai l'impression de ne pas avoir été très très clair.
Non, allez-y.
D'autres questions ou bien...
Je veux bien quand même réagir avant qu'on passe à d'autres questions, peut-être. Pardon. Il me semble que dans une dynamique mystique d'élan et d'ouverture, il y a toujours quelque chose qui est incontrôlé. Et qui est incontrôlé d'abord pour soi, avant même que ce soit collectif, ecclésial. Mais je pense que la méfiance, elle est là. C'est jusqu'où l'incontrôlé peut-il aller? Et c'est là où les médiations, pardon de revenir à ce thème-là, mais c'est là où les médiations sont déterminantes. Pas pour faire du contrôle, mais pour être avec d'autres. Hein, la médiation de l'ecclésialité, ça a été dit tout à l'heure, pas par moi, est vraiment déterminante à cet égard. Et le rapport aux énoncés dogmatiques, qui sont pas juste des contraintes et des carcans. Et pas du tout, d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a dans une compréhension mystique et une expérience mystique, il y a toujours quelque chose qui peut vraiment déraper, qui peut délirer. Donc c'est ça l'inquiétude. Il me semble qu'elle est d'abord là. Et pas seulement l'inquiétude des autres, d'ailleurs, par rapport à soi-même, on peut avoir cette inquiétude-là.
On peut être conscient du fait qu'il y a évidemment beaucoup d'approches, beaucoup de définitions de la mystique au cours des siècles. Pour le néoplatonisme, pour la tradition platonicienne ancienne, par exemple, l'expérience mystique était souvent liée à l'expérience d'un inattendu, quelque chose qui arrive soudain, hein, esaïphnès, quelque chose que l'élan de l'être humain ou l'effort de l'être humain ne permettait absolument pas de prévoir, mais qui arrive de façon tout à fait inattendue. Alors c'est vrai que la question, la thématique de l'élan est souvent utilisée. Je vois parmi les personnes qui sont en distanciel, il y en a une qui a écrit « Il y a dans la mystique un élan, une marche vers l'inaccessible ». Alors, en parenthèse, « Fable mystique » de Michel de Certeau. Est-ce que de Lubac maintient cette dynamique en incluant la révélation dans son objet ? Alors, je crois que oui, l'idée d'un élan est absolument essentielle. On l'a reprise plusieurs fois, l'idée d'un élan, enfin c'est absolument central dans un livre comme Sur les chemins de Dieu, par exemple. Mais chez Père Dubac, c'est toujours référé à ce qu'il appelle, suivant les textes, l'objet, le fait du Christ, le mystère. Voilà. Je crois que c'est une caractéristique essentielle pour lui. Il y a une question pour vous. Quand vous citez, question pour Brigitte Chalvy, hein. Quand vous citez l'Ode à Tossi, numéro 391, aspect trinitaire de toute créature, comme conséquence de la pensée trinitaire du père de Lubac, pourriez-vous nous en dire plus?
Alors, d'abord, c'est moi qui fais le lien, je ne suis pas sûre que... Encore que le pape François avait dû lire de Lubac quand même, hein, je pense. Mais on va pas supposer que ce soit une conséquence, hein, donc il faut avoir la nuance sur le mot conséquence. Je corrige les numéros de Laudato Si, c'est 238 et 240 et 239, donc forcément. C'est vraiment les derniers numéros avant les prières finales, sont vraiment les derniers numéros du texte. Alors, je réserverai absolument le fait qu'il y ait un lien direct. J'établis un lien parce qu'au fond, s'appuyant sur Bonaventure, François, le pape François, il le cite, hein, explicitement, donc c'est une vraie référence. dit ces choses assez extraordinaires, me semble-t-il, que le défi, le défi devant lequel nous sommes, c'est d'arriver à lire la réalité de manière trinitaire, c'est-à-dire sous le mode de la relation. Ça, c'est le défi d'une compréhension d'une structure ternaire, hein, pour pas dire trinitaire trop vite, mais d'une structure ternaire de la réalité. Est-ce que nous voyons? Est-ce que nous lisons la réalité de cette manière-là? Alors, bien souvent, non. Je pense que ça peut être la réponse à peu près commune, partagée. Mais il me semble que l'un et l'autre, chacun là où il est, c'est-à-dire, tranchons pas sur une influence directe, l'un et l'autre offre cela, enfin, oriente vers cette capacité à lire le réel de cette manière-là.
Je ne sais pas si encore une question ici.
Juste une remarque que peut-être très marginale, mais moi j'ai été frappé par quelque chose que vous avez dit à propos de la structure ternaire de la pensée de Lubach. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est la structure prégnante. C'est une structure binaire. On est enfermé dans 1 ou 0, pour ou contre. On polarise effectivement toutes les analyses qu'on peut faire. Et je pense qu'effectivement, tout ça nous conduit à une impasse, parce qu'on passe à côté de la complexité de la réalité. Et on s'enferme dans une espèce de paresse intellectuelle.
Alors, je dis la question pour ceux qui sont en distanciel. Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. En fait, Brigitte Chauvy a beaucoup insisté sur la structure ternaire, hein, souvent de la pensée du père du Bach. Or, aujourd'hui, on est plutôt une dominante du binaire. Hein, du binaire. Voilà. Remarque.
Moi, j'ai été frappé en vous entendant, Michel, nous parler de l'article du père de Lubach sur le père Le Breton. Combien on avait là, justement, en train de se dire et de se faire cette idée de médiation, c'est-à-dire là, justement, la médiation du langage, de l'intelligence et des mots de la foi qui viennent non pas arrêter l'élan de la vie spirituelle, mais qui viennent au contraire le garantir et le servir. Et je trouve ça très impressionnant de voir là comment la médiation de l'intelligence est au service de cette vie, de cette vie mystique, de cette vie spirituelle.
Et c'est justement parce que c'est, si le père du Bach, à la suite du père de Breton, insiste tant sur le fait que les mots, les formulations n'épuisent pas le mystère, n'épuisent pas l'objet, c'est parce que, selon des objections modernistes, étaient suscitées par précisément un contresens au sujet des dons qui était compris comme mettant la main justement sur le mystère. Donc je crois que c'était aussi une manière indirecte de répondre à une compréhension, une certaine représentation des dons qui du coup suscitait le rejet de ceux-ci. Donc le père Dulbach dit non, il faut vraiment entendre à travers les dons quelque chose qui nous est dit de la vérité et en même temps savoir qu'aucune des formulations n'épuisera jamais le mystère qui est ainsi visé. Effectivement, ces positions médiatrices. Effectivement. Oui, une question au fond.
Je vous remercie, Monsieur Feudou, pour ce texte de Le Breton qui reste, à mon avis, d'actualité. Et dans votre compte rendu de ce que Lubach dit de ce texte et comment de Lubach présente ce texte, vous finissez un peu comme une ouverture par dire que finalement la mystique est liée à la foi au dépassement des énoncés de la foi. Voilà, un peu des dogmes, mais que c'est aussi lié au processus d'énonciation même de ces énoncés. Alors, ce qui me fait vous poser la question, est-ce que finalement on peut dire que tout théologien et tout travail théologique a besoin de cette part, finalement, de la mystique. Est-ce que finalement tout théologien est appelé à non pas ou peut-être à avoir cette expérience mystique ou à dialoguer justement avec des personnes qui ont cette expérience mystique dans l'Église. Merci.
Je dirais au moins tout théologien est appelé à parler, parce que la théologie, dans théologie, il y a logos. Voilà. Donc tout théologien est appelé à parler. Mais tout théologien, enfin, si situé en tout cas dans une perspective, la perspective de la foi chrétienne, doit savoir qu'aucun de ces mots ne sera jamais parfaitement adéquat pour rendre compte du mystère qui est visé. C'est ce paradoxe qui me semble revenir constamment sous la plume du père de Lubac. J'emploie à dessein le mot paradoxe, cette notion qui lui est très chère. À la fois, il faut parler, mais dès qu'on a posé un mot, dès qu'on a employé des formulations, il faut savoir que ces formulations restent toujours en deçà de la vérité qu'elles visent. Et c'est une position, en quelque sorte, c'est une ligne de crête qui, pour lui, c'est une ligne de crête qui est à tenir. Parce qu'il y aurait deux écueils inverses. Le premier écueil, ce serait de dire, ben voilà, les mots que nous disons sont parfaitement adéquats à la vérité. Et puis, le second écueil, l'écueil inverse, ce serait, au fond, de dire que aucune expression ne parvient finalement à dire quelque chose du réel. Et le père de Lubac se situe exactement sur la ligne de crête entre ces deux écueils, me semble-t-il. Il faut parler, mais il faut savoir qu'aucun mot n'épuise l'objet, le mystère qu'il vise, cependant. Et réciproquement. Il faut savoir que aucun mot n'épuise le mystère, mais c'est pas un alibi pour ne pas parler. Ça joue dans les deux sens.
Il me semble que, indirectement, votre question évoque quelque chose qui est enfin très important chez Lubac, c'est sa critique, sa prise de position par rapport à ce qu'il analyse comme une séparation entre théologie et mystique, qui a lieu, alors, on va dire, dans la modernité, comme d'autres séparations, par exemple, entre théologie et philosophie. Mais celle qui nous occupe là tout de suite, c'est théologie et mystique, et il montre, par des apports historiques, il montre combien les temps modernes ont créé cette séparation. Et ce qui fait que il y a les mystiques d'un côté, et donc... les Espagnols, les Réno-Flamands, pour faire bref, il y a les mystiques d'un côté, et puis il y a les théologiens qui font de la spéculation. Je caricature fort pour montrer les choses, mais je pense que le père de Lubac et avec lui beaucoup de personnes au XXe siècle ont refusé cette séparation et ont donc cherché le lien entre théologie et mystique, et donc ont touché du doigt que aucun énoncé n'est adéquat à ce qui est visé et que pourtant il faut parler. Donc on est dans un beau paradoxe, on va dire simplement. Mais c'est parce qu'il repère et qu'il refuse la séparation théologie et mystique depuis son début.
J'ai une question. Est-ce possible d'avoir un peu plus d'éclairage sur le lien entre l'intériorité et l'extériorité? C'est pour vous.
C'est pour moi. Oui, je ne sais pas si c'est possible, mais merci de la question d'abord, bien sûr. Mais ce que j'ai essayé de dire, parce que je ne vais pas trancher le lien entre les deux, mais ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il me semble que chez Lubac, évidemment, il parle d'intériorité comme n'importe quelle personne qui cherche à parler de spiritualité. Mais on ne doit même pas employer le mot de mystique, spiritualité suffira. Mais on voit bien le risque. Hein, pourquoi on est inquiet? Le risque, c'est que l'intériorité suffise. Moi, il y a Dieu en moi et ça suffit. Non, justement, c'est contre cela, il y a vraiment une prise de position qui est, à nouveau, les médiations, l'écriture, les sacrements, l'Église, enfin, etc. Et donc, c'est bien par l'extérieur, et en reconnaissant que c'est l'extérieur et en maintenant que c'est extérieur, que c'est autre, ça suffirait peut-être de dire cela, c'est autre que moi, que j'entre dans une démarche spirituelle. Je dirais cela comme ça. Hein. Mais c'est vraiment, je pense que c'est une prise de position par rapport à, pour le coup, dans le contexte contemporain, tout ce qu'on peut appeler le développement personnel. Alors pas tout le temps, ne systématisons pas trop, mais beaucoup de développement personnel qui sont simplement moi avec moi. Pour le dire comme ça.
Un peu dans cette ligne-là, pour prolonger un peu la réflexion là-dessus, j'étais frappé de ce que vous avez un peu tous employé les termes d'ouverture et d'élan. Il y a un mot que vous n'avez, je crois pas, employé, c'est le mot d'expérience. Et alors, quand on parle de mystique, on pense souvent assez facilement à l'expérience, ou aux expériences, peut-être un peu trop. Et chez Lubach, ça intervient en particulier dans le texte Mystique et Mystère, à la fin, d'une manière qui est assez, je crois, assez caractéristique de Lubach, puisque c'est tout à fait, c'est le dernier paragraphe, hein, il dit « L'expérience n'en est pas moins quelquefois donnée, comme par surcroît, la présence divine investit l'âme qui aime de chercher Dieu qu'en cherchant à se conformer à sa volonté par les voies de l'Évangile dans l'imitation du Seigneur. » C'est-à-dire que, il me semble qu'il y a chez Lubach toujours aussi le sens de la liberté de Dieu, en fait. Et que, donc, la faiblesse du langage, c'est pas simplement que Dieu est inaccessible. Ce que, après, toutes sortes de mystiques peuvent penser. Mais c'est que Dieu est libre de se donner et il est libre dans son don. Voilà. Et que, alors vous avez très bien rappelé, justement, il me semble que vous avez très bien rappelé ça, vous, Bertrand Dumas, au début, en disant que c'est le rapport entre la mystique objective, c'est d'abord l'acte de Dieu, c'est Dieu qui veut se donner, et puis qui rencontre une capacité qu'il a créée en l'homme pour cela. Et ce que vous venez de dire sur l'intériorité, qui ne peut pas suffire aussi, me semble-t-il, est nécessaire, enfin, dit bien cela aussi, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de confesser Dieu qui se donne, mais qui se donne aussi comme il veut, et quand il veut, et à qui il veut.
Oui, cette liberté de Dieu qui se donne comme il veut, à qui il veut, et qui se double en même temps de cette structure par laquelle il fait que l'être humain, finalement, est renvoyé à tout ce qui est authentiquement humain pour rencontrer Dieu dans la foi. On revient à la question de la médiation comme ce lieu ordinaire assez impressionnant, c'est-à-dire que la morale, la religion, qui est d'abord une réalité naturelle avant d'être assumée par le Christ, l'acte d'intelligence et de langage, tous ces lieux-là sont effectivement ces lieux par lesquels Dieu librement se propose à rencontrer. Là où on a souvent finalement un peu cette vision, à mon avis, problématique d'une mystique qui serait une sorte de court-circuit, hein, d'expérience directe et qui effacerait tout le reste, on est là renvoyé à la fois à la liberté de Dieu qui par surcroît peut et qui en même temps en temps ordinaire nous renvoie, en fait c'est une mystique qui nous renvoie à tout ce qui est profondément humain. Et c'est, je trouve que c'est très fort parce que, y compris en catholicisme, on a souvent tendance à, ça c'est Madeleine Delbrel qui dit ça, à affecter des coefficients spirituels aux activités. La messe, coef 10. Moi, je rencontre Dieu. La confession, coef 8 ou 9. Vous voyez, et quand j'arrive à la vaisselle ou au ménage, je suis à 0,5 ou peut-être 0,2. Ça dépend des tempéraments. Et comme si, finalement, ce qui était humain, voire prosaïque, était non pas une médiation, mais une interposition entre Dieu et moi. Ou comme si tout l'amour que je donnais à mon épouse, à mes enfants, l'attention à mes étudiants, étaient des choses que je retirais à Dieu. Vous voyez, cette espèce de pensée, ou en court-circuit, ou en vase communicant. Un peu cette théologie du plombier, là, tout ce que j'en avais à Dieu, je le donne aux humains et inversement. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a cette grande gratuité de Dieu, mais qui, par l'ordinaire, nous propose de vivre une vie spirituelle qui nous renvoie à ce que nous sommes, j'ai envie de dire, tels que nous sortons de la main de Dieu. Capacité d'agir bien, de raisonner. Et ça en fait des prolongements très forts quant à une mystique qui peut se déployer jusque dans l'ordinaire.
Voilà. Alors, d'abord, il y a une question qui a été posée par une personne en distanciel. Bon, c'est pas vraiment une question, mais vous parlez d'ouverture mystique et d'élan, mais aussi de contrôle. Je pense à une jeune femme qui a fait une synthèse de tous les mysticismes de façon syncrétiste, à partir des évangiles apocryphes, ou mettre à la limite. Alors, je crois qu'évidemment, il y aurait à faire intervenir ici toute la question du rapport à l'écriture et de la régulation ecclésiale. Évidemment, c'est quelque chose qui n'a pas pu être tellement développé ce soir, mais là, je vous renvoie au livre Méditation sur l'Église en particulier. C'est une question importante, en tout cas, effectivement, qu'est-ce qui permet de discerner, hein, la vraie mystique et celle qui est ambiguë, voilà. Voilà, mais comme le temps passe, eh bien, je pense que maintenant il est temps, je voudrais proposer à Mgr Moulin Beaufort de venir ici pour dire quelques mots. Donc, Mgr Moulin Beaufort a écrit un ouvrage sur l'anthropologie théologique du père de Lubac, et puis il est président de l'Association internationale cardinale de Lubac. Donc, je suis heureux qu'il puisse nous adresser quelques mots ce soir.
Voilà, ben d'abord, comme président de cette association, je voudrais d'abord vraiment beaucoup remercier Bertrand Dumas, mais aussi les personnes qu'il a évoquées, la dame qui a assuré les traductions, comme Sylvie Masque, qui ont rendu possible la réalisation de cet ouvrage que nous attendons depuis 16 ans, je crois. On a dû commencer il y a 16 ans, parce que l'air de rien, réunir tous ces textes, choisir un peu comment les présenter, quelle version prendre, notamment pour le texte sur l'anthropologie tripartite, c'était compliqué, alors sachant que personne ne fait que ça quand même, donc au milieu d'autres occupations. Voilà, et puis il y a eu aussi quelques incidents techniques qui ont obligé à recommencer ce qui avait déjà été fait, etc. Donc ce volume est le résultat de beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, mais je crois moi aussi que c'est un beau volume, et je pense que c'est un volume très important. Alors, pour ma part, lorsque j'avais travaillé sur l'anthropologie du père de Lubac, j'étais arrivé un peu presque au terme de toutes les lectures que j'avais faites au texte Anthropologie tripartite, et j'avais constaté la différence de version entre ce qui était publié en français et ce qui existait en italien, et ça paraissait tout à fait intéressant. Et ce texte m'a donné la clé dont j'avais besoin pour faire ma thèse. C'est comme ça quelquefois quand on fait une thèse. On accumule beaucoup de matériaux, puis après il faut essayer de trouver un facteur d'unité de tout ce matériau, qui soit aussi un peu une clé d'intelligibilité de la pensée qu'on essaie de poser. Cette anthropologie tripartite m'a paru très importante et un peu sous-jacente à toute la pensée de Lubac depuis le commencement, avant même qu'il l'ait vraiment identifié comme tel, et permettre de rendre compte de beaucoup des éléments de sa pensée, en tout cas, et en particulier de cet équilibre très spécial qu'il y a chez lui, qui s'exprime dans le paradoxe, cet équilibre de tension permanente. Vous avez évoqué, Père Fédou, la ligne de crête sur laquelle il s'agit de se tenir toujours, mais il faut bien comprendre que la ligne de crête, c'est la ligne où on reçoit des vents contraires, où on peut aller il faut aller à la fois dans les deux directions en même temps. C'est comme la ligne de partage des eaux. Il faut aller des deux côtés à la fois. Il ne faut pas aller que d'un seul côté. Ni simplement rêver d'une espèce d'équilibre statique où on arriverait en une seule phrase à dire tout à la fois. En réalité, on ne peut être que dans cette tension, et il faut l'accepter. Et parfois, certaines difficultés dans la pensée ecclésiale viennent de ce que on n'a pas toujours toléré. On a du mal à accepter que les deux choses doivent être dites en même temps. Voilà. Selon le mot du psaume, Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues et dont il faut nous nourrir. Alors vous l'avez dit tous les trois, ce volume ne récapitule pas tous les textes de Lubac sur la mystique. En réalité, on pourrait en trouver des traces à peu près partout si en cherchant bien. Pour ma part, ce que je retiens de Lubac, c'est dans Catholicisme, ce qu'il dit de la mystique augustinienne. Il parle du premier principe de la mystique augustinienne. Ça va rejoindre quelque chose que nous a dit Madame Cholvy. Le premier principe, c'est qu'entre Dieu et l'homme, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, nulla natura interposita, et qui commande comme ça. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a que des médiations. C'est-à-dire, il n'y a personne qui vient s'interposer entre Dieu et le fond de l'être humain. Mais en revanche, il y a des aides. Et ça, les aides, elles sont multiples. Quand vous dites médiation, je pense que c'est ça qu'il faut entendre. Et ça peut être aussi bien l'écriture que la vie ecclésiale, que le devoir d'État à accomplir tous les jours, la vaisselle dont vous parliez, tout à l'heure. Et ça, c'est un point très important. Et pour répondre à la question peut-être, enfin, pour apporter un petit élément supplémentaire dans la question qui a été posée sur pourquoi est-ce qu'on se méfie de la mystique, il me semble que l'endroit où Lubac a un petit peu abordé ça, c'est son psaume-t-il sur ses amis, je crois que c'est sur Nicolet. C'est Nicolet qui avait fait toute une étude sur Fénelon et Bossuet. Et Lubac a un texte pas complètement abouti sur le sujet, mais que je trouve très, très passionnant pour essayer de comprendre ce qui a vraiment été en jeu là. Et en fait, une des grandes crises de la mystique dans l'Église catholique et en particulier dans le monde français, c'est ce conflit entre Bossuet et Fénelon. En tout cas, il me semble que c'est comme ça que Lubac, c'était une des pistes que Lubac a un peu abordée, sans aller jusqu'au bout du travail qu'il aurait à faire certainement là-dessus. Donc tout ça pour dire que ce volume me semble, et vous l'avez très bien montré, Père Fédou, aussi dans votre commentaire du texte sur le Père Le Breton, parce qu'en prenant ce qui pouvait paraître le plus éloigné du sujet, vous nous avez montré comment il touchait le cœur du sujet. Ce volume me semble, il nous aide à nous tenir un peu au cœur de la problématique de la mystique et du mystère chrétien tel que Lubac le comprend. Parce que, comme vous l'avez rappelé aussi tous les trois, pour lui, la mystique, c'est toujours la capacité de... Enfin, la mystique chrétienne, c'est la capacité de l'homme de se mettre sous le mystère, de se nourrir du mystère, pas de le dépasser, pas de le dissoudre, mais de se laisser intégrer dans le mystère plutôt. Voilà, avec une autre formule d'Augustin que Lubac aime beaucoup, qui est « Ce n'est pas toi qui me mangeras, c'est moi qui t'assimilerai à moi. » Voilà, donc il me semble que ce livre nous met vraiment au cœur de beaucoup de belles problématiques. Et ça me permet alors, comme président de l'association, d'annoncer une publication que nous espérons prochaine maintenant, qui est celle de Exégèse médiévale, qui est aussi, en fait, à part bien des égards, un livre sur la mystique, en tout cas qui touche beaucoup de questions, notamment dans la compréhension de l'allégorie, de l'anagogie, de ce qu'est le quatrième sens. Est-ce qu'il se détache complètement du sens littéral, est-ce qu'il se détache du substrat historique, ou bien est-ce qu'au contraire, il nous permet de nous en laisser habiter profondément. En tout cas, nous aurons l'occasion d'en reparler, car nous espérons bien que les prochaines publications de l'association, ce sera les quatre volumes d'exégèse médiévale, un travail tout aussi conséquent qui a été mené à bien et qui attend maintenant que l'éditeur puisse le réaliser. Voilà, il restera encore d'autres choses. Et donc, je remercie parmi vous qui sont adhérents de l'association. Ceux qui ne le seraient pas, n'hésitez pas à l'être. Je suis bien obligé de remplir mon rôle. Je pense que le rôle du président, malheureusement, va jusque-là. Donc, n'hésitez pas, si vous n'étiez pas encore adhérent, à le devenir, parce que c'est ce qui nous permet vos cotisations, permettent à l'association d'exister. Et puis d'œuvrer, d'organiser ce genre de réunions. Même si, encore une fois, pour le moment, l'essentiel de notre action, c'est quand même d'achever l'application des œuvres complètes pour que la pensée du XXIe siècle puisse se nourrir de cette grande pensée très récapitulative qui est la pensée du père de Lubac. Voilà. Merci vraiment à vous trois pour avoir vraiment travaillé pour nous présenter ce volume. Et je salue aussi ceux et celles qui se sont joints à nous par les prodiges de la visioconférence.
Merci beaucoup. Je veux juste ajouter, donc, rappeler qu'il y a une petite librairie au fond de cette salle, hein, si certains souhaitent se procurer l'un ou l'autre des volumes qu'on a évoqués ce soir. Je crois qu'il y a aussi une urne à la sortie de la salle si vous souhaitez contribuer aux frais d'organisation de cette soirée. Je tiens vraiment à remercier encore Brigitte, Solvi, et puis surtout Bertrand Dumas, non seulement pour son intervention, mais pour la préparation de ce volume. Et puis merci à vous pour votre présence et aussi à tous ceux qui nous ont suivis en distanciel. Bonne fin de soirée.
Vous savez qu'on peut garder les messages.